Bonjour et bienvenue dans Kaboom, l'émission la meilleure table ronde critique du web, bien sûr, où l'on décortique toutes les deux semaines les nouvelles sorties en salle. C'est la guerre dans les salles de cinéma, une guerre où les boutons sont les premières victimes et le bon goût n'est pas souvent de mise. On vous en dit un peu plus dans quelques instants. Pour l'heure, je suis entouré de chroniqueurs de prestige, comme d'habitude, trois cardinaux entourant un pape qu'ils ont élu à l'unanimité. Votre serviteur, c'est Vincent Quesnot de Ciné+. Et autour de moi, il y a Nicolas Kunz, auteur et réalisateur. Salut Nicolas.
Bonjour.
Il y a également Frédéric Mercier, des sites de TCM et de DVD classiques. Salut Fred.
Bonjour.
Est-ce qu'on peut nous appeler Grand Gibus et Petit Gibus?
C'est de très mauvais goût, ces blagues, pour démarrer l'émission, je trouve, Nicolas. Et je suis sérieux.
Non, mais d'habitude, enfin, tu nous donnes des petits noms.
Je peux présenter notre invité, tu permets? Et donc, notre invité qui nous rejoint pour la deuxième fois, qu'on est ravis de retrouver, c'est Erwan Desbois du blog Ciné Partout Tout le Temps, qui a d'ailleurs changé, ce n'est presque plus un blog, c'est un site.
C'est www.ciné-partout-toutletemps.fr.
D'une simplicité folle.
Ah bah oui, on a enlevé le overblog.
Ah bah oui, voilà. Donc ce soir, nous parlons du dernier Moretti, Habemus Papam, ainsi que de la première des Guerres des Boutons, signée Yann Samuel, mais également de Carré Blanc, Et maintenant on va où, Fright Night, Présumé Coupable, et on terminera par quelques commentaires sur Crazy Stupid Love, ainsi que Au Revoir, car je crois que vous êtes plusieurs à les avoir vus autour de cette table. Alors, est-ce qu'on a un courrier des auditeurs aujourd'hui, Nicolas?
Oui, rapidement. Nous allons, qu'est-ce qu'on va dire? On va déjà aller vite fait faire un petit tour sur le site de Filciné, qui était notre dernier invité.
Invité courageux.
Oui, invité courageux. D'ailleurs, tous les commentaires vont un petit peu dans ce sens-là, en disant que Filciné a dû se sentir bien seul, qu'on le soutient. Et, qu'est-ce qu'il dit aussi? Une mesure de sensibilité pondérée dans une mêlée critique irraisonnée. Voilà, c'est nous.
Bah, irraisonnée, c'est Fred, hein. Ouais.
Ça, c'est seul qu'il est défendu, moi, Filciné, en plus.
Non, mais il y a d'autres. Donc ça, c'est, je pense, surtout par rapport à l'animosité avec laquelle on a parlé de la guerre est déclarée.
D'ailleurs, et le Christophe Honoré.
Voilà. Et en parlant de la guerre est déclarée, on a reçu un message quasi anonyme qui citait quelqu'un et qui parlait de son mari et qui disait, en revenant, il a dit: regarde, ils sont divorcés, ils font encore des films nuls. Alors, j'aimerais savoir, qui a pu prononcer une telle phrase?
Quelqu'un d'assez proche, mais gardons l'anonymat.
Très bien, bon, on n'en dit pas plus alors.
Ouais. Ça ressemble quand même à quelqu'un de ton entourage, Erwan, mais c'est louche, c'est ça.
Bon. À quelqu'un de notre entourage proche aujourd'hui.
Non, mais voilà, un petit peu beaucoup d'insultes à notre égard concernant la guerre déclarée. On en est ravis.
Et on en pense pas moins, d'ailleurs, sur le film.
Non, j'y ai repensé, je trouve ça toujours aussi... Non, encore plus mauvais que...
Mais écoute, c'est ce film-là qui va nous défendre aux Oscars.
Oui,
c'est
alors vrai. Oui, il faut dire que le film La guerre déclarée va nous défendre aux Oscars. Mais bon... Tiens, Erwan, toi qui es là, tu vas nous départager. Est-ce que c'est un bon film, La guerre est déclarée?
Et moi, j'ai pas aimé non plus.
Ouais. Donc... Bon, il faudra rappeler que les gens de bon goût sont rares de nos jours, mais voilà, quelqu'un de bon goût est avec nous ce soir.
Nous sommes une petite cellule dormante en minorité, mais vous pouvez nous rejoindre si vous voulez.
Manifestez-vous, vous n'êtes pas seul.
On dirait Sarkozy en Libye.
La résistance est en marche.
Bon, merci pour ces avis. De toute façon, vous savez qu'on se ferait démolir sur Honoré et Donzelli. Donc, c'est parti. On passe à une nouvelle cuvée, une cuvée d'exception. Hein, nous allons le voir. C'est Kaboom numéro 24. Et c'est parti.
Les avis, c'est comme les trous de balle. Chacun le sien. Allez, les gars, on fonce. On est foutu.
De qui François 1er était le fils?
François Zéro.
Allez, on commence avec La guerre des boutons, soit la première des deux adaptations auxquelles nous avons droit en ce mois de septembre, du roman de 1912 de Louis Pergaud, car oui, je le précise, vous le rappelle, en fonction des informations qui vous seraient déjà parvenues, la semaine prochaine, nous aurons droit à une autre adaptation qui s'appelle La nouvelle guerre des boutons, qui sera signée par Christophe Baratier, le réalisateur des Choristes et du merveilleux Faubourg 36. On en reparlera dans Kaboom, je suis ironique. Hein. Je rappelle qu'Yves Robert avait déjà signé une adaptation du roman en 1961, et qu'à l'époque, il avait actualisé la trame, hein, donc qui se passait, il me semble, à la fin du 19e siècle. Donc cette nouvelle version, signée Yann Samuel, se passe en 1957, donc à peu près à la même période que le film d'Yves Robert. On assiste à la bataille acharnée que mènent les Longevernes et les Verlans, deux groupes d'enfants âgés de 7 et 14 ans.
Les Verlans.
Au casting, essentiellement des enfants encore jamais vus à l'écran, et puis Éric Elmos Nino, Alain Chabat, dans le rôle de deux instituteurs voisins et rivaux, sans oublier la toujours aussi merveilleuse Mathilde Seigner, qu'on aime de plus en plus, je suis toujours aussi ironique, je maîtrise merveilleusement l'ironie aujourd'hui, dans le rôle de la maman de Lebrac, le chef des Longevernes. Bon alors, Fred, donc on démarre avec toi, cette guerre des boutons, ça s'est bien passé?
Voilà, la guerre des boutons, c'est tout pourri.
Tu t'avais su, tu serais pas...
Non, mais parce que durant la bande-annonce, on n'arrêtait pas d'entendre la guerre des boutons. C'est en septembre, ou je sais pas quoi. Donc oui, c'est vrai, c'est tout pourri. est-ce qu'il y a des choses à sauver dans ce film? Moi, vraiment, dès les 3-4 premières minutes, j'ai senti le naufrage que j'attendais. Je suis tombé dedans. Alors, bon, d'abord, il faut parler. Écoutez, c'est un peu difficile parce que
c'est un film assez compliqué. Je comprends que du mal.
Est-ce qu'il y a une mise en scène de Yann Samuel dans ce film? Est-ce qu'il y a une réalisation? Parce que le montage de ce film est une catastrophe qui casse, à mon avis, tout ce qui pourrait y avoir un petit peu de vie avec ses enfants. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on les voit un petit peu en train de parler, de chanter, en train de vivre, à ce moment-là, paf, ils montent en gros plan sur le visage de chacun. Ça coupe toute impression un petit peu de liberté dans le film, un petit peu d'empathie pour ses enfants. En plus de ça, ses enfants jouent très mal, ce qui fait qu'on comprend absolument pas ce qu'ils se disent. Alors comme le comique est quand même censé arriver des insultes qui s'envoient les uns les autres, moi je pouvais pas rire parce que je ne comprenais pas. À un moment donné, il lui dit t'es un asticot, blablabla, comme ça. Donc j'ai compris qu'il était un asticot.
Oui, c'est vrai qu'on comprend rien. C'est impressionnant.
Donc voilà. Alors on passait.
Vous avez perdu votre âme d'enfant.
Passer.
Nous irons en enfer.
Donc passer les mauvais acteurs, donc on a ensuite des répliques qui sont quand même très mauvaises. Je veux dire, on assiste quand même pendant 3 minutes à Emos Nino et Chabat qui se traitent de couilles molles et de peigne cul. Bon, c'est sympathique au bout d'un moment, mais d'ailleurs je sais plus dans quel film j'ai vu aussi dans la sélection, on parle beaucoup de couilles molles. J'ai l'impression que la couille molle en ce moment est une charge politique française très importante.
Ce sera le leitmotiv de cette émission.
Je crois que c'est dans la nouvelle guerre des boutons que
c'est la bande-annonce que tu as vue.
Alors si je voulais sauver quelque chose un petit peu dans le film, je dirais que il m'a semblé que le film n'était pas d'une évidemment Mathilde Seigner qui voit de mieux en mieux son nez, j'ai l'impression, mais sinon je vous
semble de plus en plus un homme.
J'ai pas le droit de faire d'attaque à la personne, excusez-moi. Mais il m'a semblé que le film peut-être était un peu moins d'une nostalgie béate que d'autres films qu'on a pu voir sur les enfants comme Le Petit Nicolas ou Les Choristes. Je trouve qu'il est moins nostalgique. Ça veut dire que il expose quand même un petit peu les difficultés pour ses enfants à leur époque, leur rapport avec leur famille, à la terre, la difficulté pour ce gamin de percer. Aussi un petit truc, la musique est une catastrophe. Et alors en plus, comme il en rajoute dès qu'il sait pas quoi faire d'une scène et comme il sait jamais faire quoi d'une scène, elle est tout le temps là. Donc voilà.
Bon, Erwan, toi tu as aimé?
Non, désolé, j'ai pas aimé grand chose ce soir.
La couleur est donnée.
Alors je suis assez d'accord avec Fred, juste sauf sur le fait qu'ils disent que ce soit un naufrage irrémédiable. Moi, en sortant de la salle, la pensée que je me suis faite, c'est qu'il y avait encore de la place pour que la version Baratier soit pire. Finalement, j'ai trouvé que c'est un mauvais film, mais il y a encore de la place en dessous, parce qu'effectivement...
Oui, il y a de grandes chances, moi, j'y crois aussi.
C'est vrai que c'est très mal joué, les enfants jouent presque aussi mal que Mathilde Seigner, qui pourtant est un niveau clair, mais là, ils y arrivent presque. C'est mal écrit, effectivement, on ne comprend pas la construction dramatique, la construction comique, c'est jamais... ça va nulle part.
Il y a de sacrées ellipses dans le film. Hein,
ouais, ou alors à d'autres moments, des moments où ça patine, ça avance pas. C'est mal filmé, effectivement, aussi. Parce que en gros, Yann Samuel, tout ce qu'il sait faire, c'est rajouter de la guimauve, quoi. Alors par la musique ou par les bons sentiments, il n'arrête pas. Mais à côté de ça, il y a deux, trois petites choses à sauver. Le duo Elmos Nino et Chabat fonctionne pas trop mal. En plus, il y a un petit côté, quand à la fin, on apprend qu'ils avaient été enfants aussi. Il y a presque quelque chose qui aurait pu se passer, là, une petite étincelle. Et comme tu disais aussi, c'est presque une agréable surprise que ça tombe pas dans la nostalgie béate sur les années 50. Qui sont en train de devenir un âge d'or pour le cinéma français, sans qu'on comprenne bien pourquoi. Et là ça y est pas. Il n'y a pas de nostalgie, il n'y a pas de critique non plus, il n'y a pas de mise en perspective, ce qui est assez dérangeant quand même de faire des films dans les années 50 et que ça ne serve à rien. Mais bon, au moins déjà, c'est pas horripilant que ça se passe dans les années 50.
Il y a une petite analogie avec la guerre d'Algérie quand même, non?
Oui, bah, attends.
Oui, elle est légère, non?
Non, mais c'est pas léger, c'est anecdotique.
Non, mais il la traîne quand même, il l'amène.
La scène où le soldat revient est absolument catastrophique, parce que, je sais pas si vous vous rappelez, il est assis, le gamin vient lui parler, et immédiatement, sans qu'il lui ait rien demandé,
oui, il commence à un monologue.
Lui dire, et là, on était sur le front, c'était terrible. Ça tombe comme un cheveu sur la soupe.
On dirait Hot Shots.
Complètement dramatique.
Historiquement parlant, c'est pas très juste, puisque tu m'avais dit.
On dirait Hot Shots un peu, cette scène-là, où tout d'un coup, on imagine presque derrière avoir des bruits et tout.
Non, mais avant cette émission, avant qu'on enregistre, tu m'as dit, Erwan, que t'avais vu un panneau qui disait que ça se passait en 57.
Bah, ça commençait déjà un peu la guerre.
Ouais, ça commençait, mais le type qui en revient, alors après plusieurs années, enfin, il y a des trucs qui collent pas, historiquement parlant.
C'est un peu du... De toute façon, tout le fait de ramener la guerre d'Algérie dedans, c'est assez artificiel.
Il n'en revient pas après plusieurs années, vous n'avez rien écouté, hein. Il est en permission.
Oui, après quoi? Après deux semaines de l'Algérie?
Peut-être.
Bon, alors bon, je vais prendre la parole parce que je vous trouve de toute façon trop gentil avec ce film qui est une catastrophe, de toute façon.
C'était mauvais, hein. Mais le Baratier, c'est pire, je pense.
Ouais,
moi, j'ai dit que c'était tout pourri.
Moi, personnellement, je ne l'ai pas encore vu. Non, mais c'est vrai, tu as prononcé le mot pourri, Fred, mais vous sauvez des choses, il ne faut pas. Je trouve que c'est un film nul. Mais nul. C'est insupportable. Je me suis ennuyé devant ce film du début à la fin. Et pourtant, je lui laissais une chance, hein. Déjà, j'ai trouvé ça bizarre. Je l'ai vu mercredi. Il n'y avait personne dans la salle. Franchement, on était trois. Il y avait deux mémés et moi. Donc, je n'ai pas compris.
Les producteurs étaient à l'UGC mercredi et ils tiraient la gueule.
Bon, ben, ça sent mauvais. Tant mieux, parce que cette guerre, il faut le dire, avant que je démarre peut-être la critique, c'est ridicule, cette sortie en salle de deux films simultanés. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très bizarre là-dedans. Donc, Yann Samuel, il avait fait Jeux d'enfants avec Marion Cotillard. Il avait fait L'âge de raison avec Sophie Marceau. Et là, il fait La guerre des boutons. Avec Mathilde Seigner, on peut dire ça, même si elle a un rôle de fond.
Ah non, hein, avec voilà. Mathilde Seigner.
Les grandes figures du cinéma français. Yann Samuel, je pense que c'est un réalisateur
c'est
qui...
C'est dur quand même pour Sophie Marceau.
Yann Samuel, je pense que c'est un réalisateur qui s'est fait une règle d'utiliser les clichés de la vie et du cinéma en général pour les réexploiter et en tirer quelque chose de nouveau. Moi, personnellement, les clichés, tout m'intéresse au cinéma sauf les clichés, je pense. Donc là, on a des petits mots d'enfants naïfs, écrits, qu'on ne comprend même pas, comme tu l'as dit Fred, parce qu'ils sont tellement mal joués qu'on ne comprend rien. C'est une surcharge de mots naïfs d'enfants qui sont censés faire sourire et qui sont censés diluer un espèce de charme donc, dans l'ambiance de ce film. C'est insupportable tellement c'est fabriqué.
Il n'y a plus du tout
ce qu'il y avait de naturel.
Dans le premier, je trouvais qu'il y avait des moments donnés on était un peu presque dérangé par la violence de ses enfants, dérangé par ce qu'ils
faisaient. Tu parles de quoi du film de Yves Robert?
Oui,
ça n'a rien à voir.
Et là, tout est édulcoré. Et par exemple, là, vraiment, la scène où ils combattent nus dans les champs, moi, j'étais vraiment très embêté qu'on ne voit pas les enfants nus.
Parce qu'aujourd'hui, c'est plus possible, malheureusement.
Mais oui, mais ça montre bien à quel point le film est fabriqué, comme tu dis.
C'est nul. Non, mais tout à fait, tu as raison. Mais Yves Robert était un bon cinéaste, il va falloir dire ça aussi. Bon, c'est mal filmé, ça vous l'avez dit. Je trouve que c'est vraiment extrêmement mal filmé, mal monté. Il n'y a aucune idée de mise en scène.
On dirait un téléfilm de France 3 le samedi soir.
Je crois que j'ai rarement vu des cinéastes qui ne pensent pas au montage quand il tourne. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a rien de cohérent, quoi. On sent que c'est les monteurs qui ont fait tout le boulot. C'est quand même incroyable. Ils ont dû rattraper en plus le coup, alors que tout était raté à la base. Et franchement, bon voilà, moi je trouve que c'est un film qui pue la tradition et le conservatisme. On parle de ces années 50 où on revient. Moi je trouve que ça devient très dangereux. Et moi je pense que ce film plaira aux gens qui veulent voir le retour des leçons de morale au tableau des écoles. Voilà. Eux, ils apprécieront sans doute le film. Moi je trouve ça horrible. Il ne faut pas faire ça au cinéma. Nicolas.
Je trouve qu'il faut refaire des leçons de morale dans les écoles.
Ben pas moi.
Non. Bon, moi, j'ai pas mal de choses à dire. Déjà, je vais me prononcer assez vite. Je vous trouve très, 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 très dur avec ce film.
C'est une merde.
Non.
Je suis
absolument pas d'accord avec vous trois. Avant, je vais peut-être refaire, puisqu'on l'a pas fait vite fait, je me suis pas mal renseigné, un petit topo sur cette double sortie.
Le dossier, la guerre des boutons.
Non, mais c'est quand même aussi pour ça qu'il est inscrit, parce que c'est pour moi, ça reste un événement. Fred criera au non-événement, mais ça reste quand même quelque chose d'un peu historique de qu'il y ait une double adaptation qui sorte à une semaine d'intervalle comme ça. Ça, c'est quand même
on en a
rarement vu en
termes
de production. l'émission.
Il y a eu deux Truman Capote à un moment qui sont sortis quasiment.
Ouais, mais enfin, là,
en France, c'est sorti assez quand même, écarté, alors qu'aux États-Unis,
là,
c'était
là, on
même
est quand
année,
même dans bon. Une espèce d'aberration de distribution et de production. Alors, ce qui
à moins que ce soit une nouvelle stratégie
passé,
marketing.
Ce qui s'est passé, c'est que les droits d'auteur, en effet, sont tombés dans le domaine public pour le livre d'origine en octobre dernier. Yann Samuel travaillait déjà depuis un an et demi. Avant que le bouquin tombe en libre de droit dessus, donc voilà pour Yann Samuel. C'est moi, je vais peut-être être plus du côté, je me reprononcerai la prochaine fois quand on parlera de celui de Baratier, mais je pense que je vais être plutôt du côté de celui de Yann Samuel qui travaille depuis 2-3 ans dessus, alors que celui produit par Langman de Baratier s'est fait en tout et pour tout concept, écriture et tournage et sortie en moins d'un an.
Ce qui est quand même très très court. Qu'est-ce qu'il a foutu en 3-4 ans de préparation pour se pondre une catastrophe pareille ?
Bon, peu importe. Mais tu vois, il y a...
Ça me rend pas plus sympathique, si tu veux.
Je pense que La Nouvelle Guerre des Boutons est autrement plus commerciale que ce volet de Yann Samuel.
Moi, personnellement...
Erwan, tu es d'accord ?
Moi, je n'y crois pas.
Je suis d'accord que Yann Samuel se prend pour un auteur. Après, bon...
Voilà, que ça soit pas...
Il devrait pas, mais bon...
Christophe Baratier pour un voleur, c'est
non,
ça
non, mais attendez, Christophe Baratier, Yann Samuel, même combat, excusez-moi, je ne vois pas pourquoi.
Moi, je
les mets dans le même panier.
Je trouve qu'il y a autrement un meilleur investissement. Encore une fois, je me prononcerai plus précisément la prochaine fois sur La Nouvelle Guerre, mais je suis sûr qu'il y a un investissement plus profond de Yann Samuel sur le film. Bon, j'enchaîne parce que sinon... Ça va être un peu... Les deux films ont le même budget aussi à peu près, qui est assez colossal, qui est de 13 millions d'euros. C'est quand même pas mal pour un film français. Alors moi, voilà, moi je leur dis, il y a une espèce de sincérité, il y a une bonne humeur qui est plutôt communicative. Moi, je trouve le film qui est pas si mal interprété que ça. Il est parti du livre. Déjà, c'est la quatrième adaptation de La Guerre des Boutons, puisqu'il y a eu deux films avant autour de celui de Yves Robert. Qu'est-ce qu'il y a, Vincent ?
Ah non, mais je suis atterré par ce que tu racontes. Je comprends même pas comment t'as pu marcher à ça, toi, Nicolas.
Mais c'est normal,
Cus,
c'est un film qui a coûté très cher. Ça l'aime bien.
Je suis sous cachet.
Oui, oui, faut dire ce soir que Nicolas est malade.
Je l'ai vu sous cachet.
On aurait dû lui interdire de se prononcer parce que.
Je crois que. Voilà, il y a une espèce de bonne humeur qui est passée.
Ouais, mais qui est sous Prozac.
Essayez d'aller à un cinéma près d'une pharmacie.
Non. Moi, je trouve.
Prenez de l'herbe avant que je
film,
sais pas.
Voilà, il y a beaucoup de naïveté, il y a des bons sentiments à foison, il y a une mise en scène appuyée. Mais c'est la campagne, il y a une belle image. C'est moi, je trouve ça soigné. Je trouve que je critique
super
assez le cinéma parisianiste pour que justement, je trouve que la Guerre des Boutons ne tombe pas dedans et du coup, je vais pas se mettre à cracher dans la soupe quand il y a un type qui va filmer dans le Limousin et qui
ouais, sait, mais là, c'est tous les clichés du cinéma de province.
Peut-être.
C'est quand même nul aussi.
Non, attends.
Mais c'est de la. Non, attends, Nicolas, c'est ridicule.
Attends, Vincent.
Bon, allez, dépêche-toi, on est trop long sur ce film.
Non, moi, ça
mérite pas ça.
Je trouve que ça peut plaire justement aux enfants qui peuvent facilement s'identifier. Ça m'a rappelé en fait le côté populaire. Peut-être ça m'a rappelé
populiste.
Le cachet qu'avait un film comme Génial mes parents divorcent de Braoudet, qui était quelque chose d'assez mignon et tout à fait louable.
Qui était beaucoup plus sympathique.
Oui, beaucoup plus. Bon, allez, on s'arrête là sur La Guerre des Boutons.
Je vous trouve très dur.
Voilà.
C'est pas un
Nicolas
film génial,
nous trouve
mais
très
dur.
Ma dove siete? Un miliardo di persone vi sta aspettando.
Quindi lei lavora?
No.
E che lavoro fa?
Cosa faccio?
Sì.
Habemus Papam, c'est le nouveau film de l'italien Nanni Moretti, réalisateur de Journal Intime, La Chambre du Fils ou encore Le Caïman, et qui était présent en compétition au dernier festival de Cannes d'où il est revenu bredouille. Après la mort du précédent pape, le conclave au complet se réunit au Vatican afin d'élire un successeur. Les cardinaux ont du mal à faire un choix, mais la fumée blanche finit quand même par s'élever et un nouveau souverain pontife est attendu au balcon devant les fidèles attroupés. Place Saint-Pierre, mais l'élu, le cardinal Melville, c'est Michel Piccoli, se rétracte soudainement, effrayé par l'importance de la tâche qu'on souhaite lui confier. Au sein du Vatican, on cherche donc une solution pour apaiser ses frayeurs. Alors, qui veut commencer à parler d'Habemus Papam ? On démarre avec toi, Nicolas ?
Si vous voulez.
Est-ce que tu es revenu à la raison depuis ton avis sur La Guerre des Boutons ?
Eh bien, c'est mauvais. J'en ai marre du cinéma italien. Non, c'est... Je me reprends. Je me reprends. Oui, je trouve que le cinéma italien est pas terrible quand même. Il a perdu son âge d'or. Moi, j'ai... En plus, j'ai... Voilà.
Oui, mais Moretti, justement, par rapport à l'âge d'or, a toujours été un héros. Et, a toujours été celui qui a fait
donc,
la survivance de ce cinéma italien.
Dans le lot, il y a quelques cinéastes très rares qui sont quand même assez grandioses. Et je mets carrément Nanni Moretti dans le sac. Voilà. En effet, parce que je trouve que Abelus...
C'est le Yann Samuel italien.
c'est le Yann Samuel italien qui filme. Écoute, il filme le Vatican comme un champ de blé. Bon, revenons un petit peu au. Non, mais allez. Je reviens un petit peu au sérieux, sinon on va me couper avant que j'ai eu le temps de dire ce que je voulais dire. Non, je trouve que c'est un film vraiment superbe. Parce que, il m'a fait cette impression d'un équilibre parfait. Dans son écriture, et c'est assez rare, c'est-à-dire derrière tout ça, une espèce de maîtrise à la fois formelle du discours et de ses intentions, et je leur dis sur de l'équilibre du film, qui est assez remarquable. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on a deux histoires en parallèle. On a ce Michel Piccoli, le pape, qui assez rapidement dans le film finalement fuit le Vatican et va vivre une vie extérieure un peu en anonyme, en reparcourant.
Il est au Vatican, mais il est
dans les rues. Il se sauve du
oui, la Rome.
Oui, il se sauve du cloisonnement. Pontifical, si je peux dire, je ne sais pas. Et il va errer un petit peu dans les rues, tandis que les cardinaux sont eux cloîtrés au Vatican et pensent à sa présence et l'attendent. Et en fait, on est toujours en parallèle avec ces deux histoires. Là, l'errance de Michel Piccoli et les doutes dont on sont emprunt ce nouveau pape. Qui sont complètement empreints d'une espèce de nostalgie, d'une espèce de d'errance comme ça très dramatique et qui est complètement contrebalancée avec un petit peu l'euphorie parce que les cardinaux vont faire des matchs de volée. Nanni Moretti qui joue un psychanalyste.
Oui, je l'ai pas dit, il joue le psychanalyste du pape.
Qui était son métier, hein, faut le rappeler aussi à Nanni Moretti, son métier de avant d'être cinéaste. Il est coincé aussi avec les cardinaux, donc il va commencer à leur donner des leçons, organiser des choses, etc. Bref, cette partie-là est très drôle. Finalement, on s'amuse beaucoup. Et c'est vraiment parfait parce que au moment où finalement, ce qui fait avancer, c'est le questionnement de Michel Piccoli. Et quand on en a un peu marre, on retourne sur la partie amusante. Et quand finalement, faut faire quand même un petit peu avancer l'histoire et le propos, on retourne sur Michel Piccoli. Et c'est toujours parfaitement au bon moment, ça tombe très juste. En plus, je trouve que c'est un film qui, je leur dis, pose une réflexion, mais ne cherche absolument pas les réponses, laisse quand même libre à l'humain, l'interprétation. Je trouve que c'est vraiment un film profond et magnifique.
Bon, moi, je vais prendre la parole. On a vu le film avec Fred à Cannes, je n'y suis pas retourné, mais ça fait partie de ces films qui mûrissent. C'est-à-dire que quand on ressort, on ne sait pas trop ce qu'on doit en penser. Mais c'est un film, je pense, tellement fort au niveau de ses images, au niveau de sa mise en scène, au niveau de ce que ça raconte, etc., que ça reste imbriqué en vous, vous y pensez, vous y repensez. Et moi, le film est encore clair comme de l'eau de roche. On est en septembre, on l'a vu donc il y a 4 mois. Et c'est vrai que voilà, donc c'est un film très beau. Nanni Moretti toujours aussi intelligent. Moi, ce qui ne m'est pas toujours chez Nanni Moretti, c'est la distance qu'il arrive à mettre avec le spectateur. Il a une notion de distance qui n'appartient qu'à lui. Qui joue de l'humour, qui joue de la pensée, c'est-à-dire qu'il prend pas le spectateur pour un imbécile, il laisse penser, il lui propose des choses. Enfin, moi, la distance que Nanni Moretti, qui appartient à ce cinéaste, vraiment me fascine, vraiment. Voilà. Alors que dire ? C'est un film qui repose beaucoup sur le personnage de Piccoli, le pape, qui fait une interprétation quand même qu'il faut dire magistrale. Il est d'une sobriété exceptionnelle et tout à la fois, il est extrêmement expressif. C'est assez impressionnant cette performance. C'est un personnage fascinant. Tu l'as dit, Nicolas, en proie à une responsabilité énorme et qui est face au doute de pouvoir assumer cette responsabilité. Suivre donc d'un côté Piccoli, de l'autre côté les cardinaux bloqués en attendant que le pape se révèle à lui-même.
C'est un film qui est plein d'émotions et à la fois très drôle, qui joue sur les deux tableaux avec.
Et puis c'est étonnant, c'est un pitch tellement étonnant aussi de parler du pape comme ça et des réflexions. Donc, enfin voilà. Après, est-ce que le film est aussi parfait que la presse ? Parce que la presse quand même est dithyrambique, il faut le dire sur ce film. Est-ce que moi j'irais dans ce... Peut-être que je dirais pas qu'il est aussi parfait que ça, Parce que je trouve que Nanni Moretti souvent aussi fait des... C'est des films de scènes, c'est-à-dire qu'il y a des scènes qui marquent dans ses films, mais tout n'est pas très homogène. Mais c'est son cinéma. C'est son cinéma. Moi, je pense qu'il est, il est comme ça. Après, je trouve quand même que c'est un film superbe, il faut le dire.
C'est touchant quand même.
C'est un film très touchant. Mais vraiment, je le redis, c'est un film qui vraiment aussi marche grâce à Piccoli. Je pense que vraiment, il le dirige merveilleusement. Et voilà, au final...
Le personnage de Moretti est génial.
Oui, 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 mais ça ne marche que parce qu'il y a
Piccoli. Vous savez que Moretti a demandé à Piccoli de faire un essai.
Ouais, ouais, ouais.
Tu l'as entendu toi
ouais,
aussi
j'ai entendu, ouais.
À la radio.
Il a fait un essai avant de sélectionner
oui,
pour le personnage.
Et Piccoli disant bon, d'habitude j'aurais trouvé ça un petit peu insultant qu'on me demande à mon âge de faire encore un essai. Et il a accepté parce que c'était Moretti et évidemment c'était tout bon.
Oui, voilà. Donc je terminerai en disant qu'au final, ce film est une pierre à l'édifice de la comédie humaine, je trouve, vis-à-vis de la religion. Et bah, c'est brillant, quoi. Erwan.
Ben, je vais me joindre au concert des louanges. Moi aussi, j'ai trouvé ça vraiment magnifique comme film. Je trouvais que Moretti portait un point encore plus fort qu'avant son équilibre qu'il a depuis toujours entre la comédie et puis l'angoisse existentielle de l'humain. Quoi. Parce que cette fois, c'est un parcours qu'il fait un peu depuis La Chambre du Fils. Il parle de moins en moins de lui, alors qu'avant, il était le personnage principal de ses films.
Ça pouvait être assez dérangeant, d'ailleurs.
Ouais, et il parle de plus en plus de nous tous. En fait, il se met de plus en plus en retrait. Déjà, La Chambre du Fils, c'était plus lui. Ensuite, Le Caïman, il était même plus le personnage principal. Et là, il parle carrément du pape, alors que lui, il est athée et tout. Enfin, c'est de plus en plus en retrait.
Oui, ce qui est rigolo, c'est que même dans le film, son personnage, à un moment donné, ne sert plus à rien.
Oui, voilà,
et c'est revendiqué.
Oui, ouais, il est complètement mis à l'écart. D'ailleurs, à peine rentré, en fait.
De voler, c'est ça qui m'a...
À peine rentré, il rentre, il fait une séance de psychanalyse, et ensuite, son patient s'en va. Donc, du coup, il se retrouve à devoir trouver quoi faire, comme tous les autres. Et vraiment, oui, ça m'a... Ce que tu as dit, Vincent, c'est que c'est extrêmement intelligent comme film dans l'écriture, les dialogues, les situations, les connexions entre les deux intrigues sont... Tout est vraiment extrêmement beau et la manière aussi dont il progresse vers de plus en plus de gravité, alors qu'au début c'est plutôt drôle, quoi. Le conclave est très drôle avec l'électricité qui se coupe, les cardinaux qui sont tous là en eux-mêmes à surtout pas vouloir être pape, c'est très marrant.
C'est les cardinaux, je crois, australiens qui veulent partir.
Voilà, qui veulent faire des touristes. Ensuite, enfin, ça commence de manière très drôle et puis ensuite, à mesure qu'on se rend compte que la situation est une impasse finalement, que d'un côté il y a quelqu'un qui ne veut absolument pas être pape et de l'autre côté d'autres qui ne veulent absolument pas, qu'ils ne veuillent pas qu'il soit pape. On va vers quelque chose de très dur, de très violent, et moi ça m'a fait penser vers la fin, dans le cheminement vers la catastrophe finalement, un peu à Mélancolia, de manière très différente. Lars von Trier le traite comme à Lars von Trier, Moretti le traite comme Moretti, mais finalement le cheminement est le même, quoi, qu'au bout du compte il y a juste le vide, et qu'on a beau essayer de se débattre, que l'homme a beau essayer de se débattre avant... Au final, on y tombe quoi qu'il arrive. Et la fin est extrêmement dure. La fin, tout d'un coup, ça devient dans les ténèbres, avec les cardinaux qui vont le chercher. Et le dernier plan est vraiment très dur.
C'est d'une dureté d'autant plus forte sur ce que tu dis, que le thème principal est la religion. Et ce qui est intelligent, c'est que justement, on attend des Moretti sur quelque chose de vif,
de frontal.
Comme il avait fait avec le Caïman, voilà. Sur Berlusconi, qui était vraiment quelque chose de violent. Et non, là, il fait ça en retrait avec une douceur inattendue.
Mais il attaque même pas vraiment la religion.
Voilà.
Il
mais montre... néanmoins, avec une conclusion, comme tu le dis, assez noire. Fred.
Oui, c'est très juste ce que vous venez de dire, qu'on n'attendait pas Moretti là. Mais je crois que ça fait partie un petit peu de sa démarche. Enfin, il me semble toujours, depuis le début, Moretti a toujours un petit peu essayé de basculer un peu les idées reçues, ou les idées reçues d'une certaine gauche bien-pensante italienne. Donc l'anticléricalisme, il va le prendre évidemment à rebours dans ce film. Moi, je suis allé revoir le film parce que Nicolas m'en avait dit beaucoup de bien et j'avais un bon souvenir de Cannes, mais j'avais l'impression de vraiment ne pas avoir fait une très bonne séance à Cannes. Et le film est très impressionnant. Et alors, j'aurais pas grand chose à dire pour aller vite. Vraiment, je suis tout à fait d'accord avec Nicolas sur l'équilibre du film. Je trouve l'équilibre du film absolument incroyable entre, on va dire, des questionnements existentiels qui courent vers la catastrophe, comme tu dis, Erwan, et évidemment une partie comédie. Moi, je trouve la mise en scène extrêmement élégante, inventive, en permanence. Il se passe toujours quelque chose dans le plan. On attend toujours quelque chose qui va arriver, qui toujours nous touche, nous bluffe en permanence.
C'est très beau. En plus, il y a un jeu graphique avec ses couleurs. Il l'utilise très bien avec ses monuments de fond, ses couleurs vives, rouges.
C'est assez graphique.
C'est beau.
C'est
vraiment
surprenant
beau.
Venant de Moretti, qui n'a pas toujours fait ça.
Et tu parles de la catastrophe finale. Moi, je sais que je suis absolument... je suis un fou de la scène finale du caïman que je trouve extraordinaire.
Ah oui, bah là, c'est un peu la même en fait, c'est
apocalyptique.
C'est la même idée,
et voilà, et c'est vrai, ce film qui d'une façon presque un peu nonchalante, comme ça, en jouant sur plusieurs tableaux, c'est quand même très étonnant, ce film qui commence avec ce conclave de façon très drôle et qui tout à coup, ce type se tire, quoi. Et il y a vraiment une autre fiction qui se joue. Et comme tu disais, Nicolas, il arrive parfaitement à intégrer de l'un à l'autre pour que ça avance. C'est un beau film, oui.
Bon, ben, allez voir Abemus Papa, vous voyez que nous sommes unanimes, et voyez à quel point quand même la sélection de ce Festival de Cannes, oui, cette année était vraiment de haute volée, parce qu'il y a quand même énormément aussi de films non primés qui sont vraiment impressionnants. Quoi.
Et après, encore, vous n'avez pas vu Harakiri.
Vous n'avez pas vu Harakiri, mais là, Fred sera peut-être un peu plus seul. On n'a pas
parlé de Drive encore non plus.
Et on n'a pas parlé... Non, mais Drive est reparti avec un prix, il y a pris de la mise en scène.
Ah, bon, ah oui, c'est vrai.
بسم الله الرحمن الرحيم
كل أبنائنا بالمسيح
ندعوكم إلى اجتماع تشاور
بخصوص هذه الفلطامي اللي عم تعملوها.
Et maintenant on va où? C'est la question que je vous pose. Eh bien, bien sûr, nous allons voir le nouveau film de Nadine Labaki.
On va au Liban, s'il te plaît, s'il te plaît.
On va au Liban. Donc, Nadine Labaki, et vous, Nicolas, la réalisatrice libanaise de Caramel. On a pu voir ce film au Festival de Cannes, section Un certain regard. L'histoire se passe dans un lieu indéterminé, Nicolas, et non pas au Liban, c'est pas dit. Mais on se doute qu'il s'agit du Liban. Oui. Donc, c'est en apparence aussi au tout début du XXIe siècle, on nous le dit à peu près. On y découvre un groupe de femmes musulmanes et chrétiennes, unies dans la volonté de calmer les tensions qui menacent leur village. En toile de fond, donc, un pays déchiré par la religion, et sur place, des musulmans en conflit avec des chrétiens. Et entre ces masses d'hommes en proie à la révolte, les femmes usent de stratagèmes pour détourner l'attention. Alors, à lire ça sur le papier, ça peut marcher, mais à l'écran, Frédéric Mercier, qu'en est-il ?
Eh ben, je vais être à mon avis contre tout le monde, parce que moi, j'aime bien le film. J'aime bien le film pour
non,
une raison...
Écoute, Nicolas a aimé La Guerre des Boutons, rappelons-le, il peut tout à fait avoir aimé ça.
Maintenant.
Alors, je vois bien ce qu'on peut reprocher, enfin, le film
imprévisible.
De défauts de partout, que ce soit déjà au niveau de l'image, la qualité même de l'image, de la façon dont elle grime les personnages, la façon de ce qu'elle raconte, la façon dont elle le fait, le discours un peu lénifiant, gentillet, etc. Bon... Mais moi, ce que j'aime bien, c'est la solution que ces femmes apportent un petit peu pour essayer de calmer les ardeurs de tous ces hommes. Parce que finalement, qu'est-ce qu'elles choisissent ?
Le merveilleux stratagème de l'autruche !
Ah non, non, alors, elles choisissent la drogue, le sexe et le travestissement. Et moi, ça me semblait des solutions...
Ouais, c'est un film de bobo parisien, en fait. C'est pour ça que t'aimes ça.
Mais je ne répondrai pas à cette attaque droitière.
C'est le Honoré libanais, voilà. Oula.
Mais j'ai pas aimé Honoré, bon. Mais
c'est vrai qu'elle chante aussi dans Emma.
Oui, mais évidemment, parce que le film essaye de mêler, on va dire, un peu cinéma oriental, cinéma occidental. Il y a un côté très œcuménique que j'ai trouvé plutôt sympathique. Et moi, ces solutions de travestissement, de drogue,
d'alcool...
de sexe. Moi, ces petites Ukrainiennes qui arrivent en tenue légère au milieu du désert, je les ai trouvées très sympathiques. Je trouve que le film aussi en permanence.
Des fois, ça joue à pas grand chose.
je trouve que parfois c'est assez drôle. Il y a des moments. Moi, le moment où le maire se réveille et où il voit sa femme en voile en train de prier dans le salon, j'ai trouvé ça
super.
Plutôt,
c'est le seul moment drôle. Il arrive rigolo. Demie,
et je trouve qu'il y a des moments d'émotion en plus qui fonctionnent assez bien avec la mort du fils. Voilà. Je dis pas que c'est un grand film.
C'est drôle, ça aussi.
Et ben, je vais vous dire quelque chose. Je comprends ce que le film peut avoir de putassier, mais par rapport à ce
qu'on avait noté le mot putassier.
Par rapport à La Source des Femmes de Mila Hinnou que nous avions vu à Cannes.
Et qu'on va pouvoir voir. Mais pour moi, je sais qu'Erwan te tarde plus particulièrement.
Mais pour moi, ça
oui, avec tous les avis positifs.
C'est du Bergman à côté.
On va faire taire Frédéric Mercier pour passer à Nicolas Kuhn. Je sais pas si c'est une bonne idée.
Déjà. J'ai conscience des
défauts. Non, moi je passe mon tour, je dirais après.
Ah, vas-y. Il veut dire après.
Vas-y, toi, allez, dis-nous tout.
D'accord, on terminera par Erwan. Ouais. Je crois qu'il fera un bon bilan. Bon, alors oui, tu as dit le mot putassier. C'est le premier mot que j'ai mis sur ma feuille. Film putassier par excellence.
Oui, mais je crois qu'elle est beaucoup plus sincère que d'autres cinéastes qui font ce genre de films internationaux.
Putassier.
On est là pour racoleur, si tu veux. Ah, voilà, ouais. C'est ça.
Péripatétieux.
Dans putassier, il y a voilà. Hein, bon, c'est un film qui se conforte dans l'idée d'avoir un sujet légitime. Je l'ai dit, c'est sur le papier, ça marche. Mais on parle de cinéma, donc sur l'exécution de ce film, c'est une catastrophe quand même. Ça a le profil des films qui vont à Cannes pour une idée, politique.
Bah, pour représenter le Moyen-Orient.
L'héroïne est
pour
sublime.
Pour représenter, en plus, mais on s'en fout qu'elle soit sublime, écoute, c'est quand même un personnage idiot. Non, mais voilà, et le travail
mais
fini...
Mais elles sont pas idiotes, ces
non,
femmes.
Mais le travail fini est nul. Attends, mais écoute, sur le papier, franchement, je le redis, ça aurait pu marcher, mais ouvrons les yeux, il n'y a pas de cinéma, quoi. Moi, ça m'a fait penser aux films de Rachid Bouchareb, donc qui sont estampillés Algérie, chaque fois qu'ils nous ramènent un film, avec juste une idée politique là-dedans, mais cinématographiquement, c'est le vide absolu, et pour moi, là, c'est à nouveau le cas, c'est une nana qui s'est... Elle ne sait pas du tout ce qu'elle est en train de faire. Elle a son idée. Elle filme un peu au pif. Alors, au début, on a une scène assez jolie de femmes qui se dirigent vers un cimetière. Je crois qu'avec le moment comique où on découvre la femme du maire en musulmane, c'est les seuls moments moi, qui m'ont peut-être un petit peu intrigué.
Moi, c'est un générique qui m'a fait penser à celui de Bolvert.
Oui, moi aussi, au début. Et ça, non, mais c'est vrai, moi aussi. Bolvert, qui est un film que j'adore. Mais du coup, le début, quand même, m'inspirait. Franchement, confiance. Puis alors après, mais c'est la catastrophe. Hein. Moi, je trouve que les personnages sont horribles. Alors, déjà, il faut dire que ce sont des personnages qui sont anoblis par l'idée de refuser d'affronter des problèmes évidents liés à la religion. Donc, c'est la théorie de l'autruche. Hein. Et pour le coup, donc, il y a une dose de vulgarité dans ces femmes. Moi, je ne comprends pas. Écoute, t'as des dialogues du genre « Mon cul est un dico, tu cherches quel mot ?» Écoute, au bout d'un moment...
Mais parce qu'elle essaye de faire quelque chose de gentil. Ou aller... Mais ça ne marche pas bien, oui, je suis d'accord. Ce n'est pas Kusturica non plus,
mais
cette femme.
Mais ça ne marche pas. Écoute, mais... c'est nul. En plus, c'est une bêtise. Il y a des stratagèmes. Écoute, la scène où il y a une... la femme du...
C'est Mercedes... peut-être dans celui-là que t'as entendu couille molle, Fred.
Certainement, vu le nombre de vulgarités.
C'est probable, ouais.
La femme du maire fait croire qu'elle parle à la Vierge. C'est une scène invraisemblable, tellement elle est mal filmée. Ouais.
Elle a aucun talent comique.
Mais c'est nul, il n'y a aucun talent. Exactement, Erwan, il n'y a aucun talent comique. Elle ne s'est rien filmée, cette femme. Elle filme des trucs un peu comme ça. On voit bien qu'elle n'a aucune idée. C'est un peu comme la guerre des boutons. Oh, ben, on verra au montage. Moi, c'est ça l'impression que j'ai. On est sur le tournage, puis on verra au montage. La photo est d'une laideur à nouveau Studio Canal, Rachid Bouchareb. Même chauffe, sauf que ce n'est pas en Algérie, c'est au Liban. Pareil. Et pour finir, on a les scènes chantées. Comme le disait Nicolas sur La guerre est déclarée il y a deux semaines, là c'est au Liban,
ça n'a rien à voir, c'est pas ça. C'est qu'elle essaye de faire un film œcuménique entre les deux religions, donc elle va un petit peu vers le cinéma oriental qui est beaucoup plus chanté, on va dire, que notre cinéma, bah, à part le cinéma parisianiste, ouais, bah, que le cinéma.
Vaut mieux aller carrément à Bollywood. Carrément à Bollywood, quoi.
Il y a trois chansons en 1h50, c'est ni fait ni à faire, quoi.
Non, moi j'aurais voulu m'endormir.
Elles sont très bien, les chansons.
J'étais fatigué, j'aurais voulu m'endormir devant ce film, je suis même pas arrivé, j'ai dû tout voir en entier. Bon, allez, Nicolas.
Oui, c'est vrai, moi aussi, que la première chantée, j'ai dit, ah là, ça recommence. je crois que je suis maudit en ce moment. Mais bon, c'est vrai que c'est trois chansons en deux heures de film, bon, on aurait pu
s'en passer. La dernière est pas
trop mal.
Cela
dit, oui, moi, je trouve que la dernière, il y a un petit côté Astérix et Cléopâtre. Ça m'a amusé où ils font le gâteau, vous savez, en mettant des trucs dedans. On est en plein dans un dessin animé. Bref, moi, je trouve que la scène d'introduction est pas mal quand même.
Je l'ai dit.
Voilà, faut le redire parce que...
Non, on l'a assez dit.
Voilà. Enfin, mais finalement, je vais vous compiler un petit peu parce que je dois être un petit peu entre vous deux et puis Erwan compilera ma compilation. Donc, tu es
entre le pas trop médiocre et le très médiocre.
Ouais, parce que là où je te rejoins complètement, c'est que c'est vrai qu'il n'y a pas de mise en scène dans ce film. Il y a passer l'intro.
Pardon, tu viens nous parler de La guerre des boutons.
Mais non, mais c'est bon, hein. Il n'y a pas du tout de mise en scène
ça
là-dedans.
Un peu, là.
C'est un peu triste, c'est pareil, il y a pas trop d'idées de cadre, c'est un peu posé comme ça, c'est pas super joli à voir, donc voilà, une fois passé à mise en scène, donc en effet, maintenant on va où après avec cette mise en scène? Voilà, on sent aussi cette absence totale de maîtrise de la réalisatrice, c'est du cinéma assez impulsif, qui est pas construit, et ça reste très problématique. Maintenant, au-delà de ça, moi je trouve que c'est un film qu'on peut aimer par petites touches, parce que voilà, il y a des petits dialogues, des petites idées de dialogue, des petites scénettes qui arrivent à se rendre
sympathiques. Les gens ont applaudi à la fin de la projection.
Ah bon, bon. Ouais, tu sais, les gens ont applaudi à la fin de Crazy Stupid
aussi.
Love, mais bon. Donc voilà, chacun sa salle, j'ai envie de dire.
Je vais me jeter par la fenêtre, je reviens.
Non, mais si tu veux, là, il y a. Voilà, moi je trouve que par petites touches, c'est un film qui peut plaire. Je trouve qu'il y a des scénettes qui fonctionnent, qui peuvent être séduisantes. Moi, ça m'a amusé par moments, mais je trouve que l'ensemble est très mal équilibré. Pas très bien construit.
C'est sûr que c'est pas du Moretti, oui.
Et puis c'est vrai que c'est pas maîtrisé, donc c'est embêtant, en fait.
Bon, allez, Nicolas, le pays des bisounours, ça suffit.
Ah non, mais je dis pas du bien, hein, spécialement.
Si, c'est trop positif. D'ailleurs, t'as mis une chemise rose aujourd'hui, je le précise.
En plus, Vincent,
c'est vraiment le pays des bisounours.
C'est un salaud, c'est toi qui nous l'a infligé, ce film.
Tu vois un message crypto-gay dans ma chemise rose.
Écoute, et maintenant, on va où ? On en est loin, quand même. Erwan.
Alors, moi, j'ai trouvé ça horrible. Simplement, c'est effectivement, tu disais que c'était du putassier, c'est du racolage, mais du racolage vraiment actif, mais extrême, quoi, parce que tout est fait pour séduire le public, pour séduire le festivalier,
bah oui,
pour séduire
le public ukrainienne,
le public bien pensant. Voilà, il y a un mélange de messages politiques et de choses un peu plus grivoises avec les prostituées, avec la drogue, avec le sexe. Sauf que de tout ça, elle n'en fait rien du tout. Les stratagèmes des femmes, donc que tu as dit, Frédéric, qui sont le sexe, le travestissement et la drogue, qui sont effectivement sur le papier, ça change, quoi. Elle en fait rien. Le hashish, qu'est-ce qui se passe? Ils font des gâteaux au hashish, elle les donne aux hommes. Les hommes s'endorment. Point.
Elle est
fin de la
incapable,
séquence.
Moi, je pensais vraiment qu'il y aurait
une catastrophe.
Grande...
Mais c'était comme
quand ils sont mal regardés pendant ce temps-là, ils vont enterrer les armes à feu.
Non, tu as raison, Erwan.
Oui, enfin bon, dans ce cas-là, on peut juste attendre qu'ils dorment et on enterre les armes à feu.
Non, c'est moins drôle.
Erwan, sur la scène,
on loupe une chanson.
Où ils sont tous défoncés, on s'attend à une grande scène où très drôle, un truc à la Fellini où ils sont complètement achevés et elle passe à autre chose. Et ça, c'est un scandale.
Tout le film est comme ça.
Le film retombe à plat complètement.
Le film passe son temps à donner une idée et à couper, à pas faire quelque chose de son idée, surtout.
C'est un film d'idées.
Voilà, mais donc ça s'appelle un synopsis. Voilà,
c'est un peu ça, ouais.
Et effectivement, c'est laid à force de vouloir séduire, quoi, les filtres jeux ocre, parce qu'on est au Moyen-Orient, les femmes qui sont toutes magnifiques, elles sont pas vraies, quoi.
Nadine Labaki elle-même, hein, qu'on voit dans le film, qui tient la tenancière du...
Oui, voilà, qui se met en valeur elle-même, enfin c'est... Vraiment, alors le film donne les orties pour se faire battre avec son titre, et maintenant on va où ? Parce que c'est presque... On a presque pas envie.
Après,
de
rien à déclarer.
Faire la blague.
C'est une belle conclusion,
Oui, mais ce qui est amusant, c'est que la Nadine, là, elle est... C'est
la Nadine.
Non, mais c'est un film d'un groupe de femmes, et moi, ce qui m'a choqué, c'est en ressortant, j'ai regardé l'affiche, elle est quand même seule sur l'affiche. Je trouve que c'est un peu moyen par rapport au film.
J'aurais préféré que ce soit la femme du maire, parce que sur l'affiche, ça aurait été déjà plus drôle.
Qu'est-ce que c'est ?
Il y a des gens. Je vais voir.
C'est quoi, Snoopy ?
Oui, c'est vrai.
Qu'est-ce qui se passe ?
Vous êtes bien, monsieur Maréco ?
Oui, c'est moi, pourquoi ?
Commissaire Durie. À partir de maintenant, vous êtes en garde à vue. Nous allons procéder à une perquisition.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous avez une commission rogatoire ?
Fabrice Burgot, juge d'instruction.
Maman !
Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça ? Qu'est-ce que vous me reprochez exactement ?
Vous et votre épouse êtes accusés de viol sur mineur de moins de 15 ans.
On passe à Présumé coupable. C'est un film français réalisé par Vincent Garinque, ou Garinque, je ne sais pas comment on dit, et adapté du livre Chronique de mon erreur judiciaire, dont l'auteur, Alain Maréco, était l'huissier de justice accusé à tort dans l'affaire Outreau en 2001. C'est l'entrée en enfer donc d'un personnage accusé de pédophilie, emprisonnement, couple et famille détruits, carrière brisée, tentative de suicide, grève de la faim. Rien ne lui est épargné. L'homme vit une aventure d'une injustice folle et ne bénéficie d'aucune présomption d'innocence. Philippe Torreton incarne Alain Maréco, tandis que Noémie Lvovsky, comme sa femme, Edith, l'impénétrable juge Burgot est quant à lui interprété par Raphaël Ferré, et l'avocat de la défense, maître Hubert Delarue, il est interprété par Vladimir Yordanov. A noter que le film a été présenté au tout dernier festival de Venise et qu'il en est revenu avec le prix du meilleur film européen remis par les exploitants. On démarre avec Erwan ?
D'accord. à l'instant, pour maintenant on va où, on a parlé de film d'idées. Et là, je trouve que c'est aussi un peu... C'est l'un des deux gros défauts du film, selon moi. C'est que... Alors, on va adapter au contexte. On va dire que c'est plus un synopsis, c'est un procès-verbal, cette fois. En fait, le réalisateur décline toutes les étapes de ce qui est arrivé à Alain pendant tout son cauchemar, en fait. Mais sans jamais développer ces événements. C'est-à-dire qu'il arrive en prison. La scène d'après, il est en prison. On lui dit, vous êtes dépressif, vous partez en hôpital psychiatrique. Il arrive en hôpital psychiatrique, fondu au noir. On voit une scène où il est chez le médecin en lui disant, vous êtes guéri, vous retournez en prison, et etc., etc. Il n'y a jamais... Le film passe sur tout, survole tout.
Ah bon, je m'exprimerai après.
Côté programme, quoi.
On décline une liste de trucs horribles qui sont arrivés à cet homme en jouant uniquement sur le fait de projeter chez le spectateur cette idée que, oh là là, si ça m'arrivait à moi, ce serait horrible. J'ai trouvé que c'était le seul ressort du film. Et alors juste l'autre chose en plus qui m'a également...
C'est quand même fort, ça.
C'est fort, mais sur le papier. C'est fort comme dans La Guerre est déclarée, le gamin a une tumeur au cerveau. Ça aussi, c'est fort, mais ça fait pas un bon film.
Ah, moi, je trouve que là, il y a de la mise en scène.
Et l'autre chose qui m'a gêné...
T'es conscient que tu vas convaincre personne avec ça. Enfin, par nous, bien sûr, mais avec ce genre d'argument sur La Guerre est déclarée.
C'est ma traversée du désert, le mois de septembre. Et l'autre chose qui m'a gêné, parce que là, pour le coup, ça dessert également beaucoup le propos du film, c'est que tout est centré sur cet homme, alors que l'affaire Outreau a quand même impliqué énormément de gens. Donc il y a eu quand même 6 autres victimes innocentes qui ont été reconnues innocentes après, qui ont eu, elles aussi, passé des années en prison. Elles apparaissent tout d'un coup au détour d'un panoramique à 2 scènes de la fin, comme si elles étaient moins importantes que le héros. Et il y a aussi eu des juges, des policiers, tout ça, qui ont construit l'erreur judiciaire. Et moi, ce qui me gêne, c'est que le film nous dit « indignez-vous », mais il ne nous donne pas les briques pour comprendre l'erreur judiciaire qui s'est construite. On est censé s'indigner de rien, de quelque chose. C'est du prêt à s'indigner, quoi. Sans nous expliquer.
Tiens, je suis extrêmement étonné par ton commentaire, parce que mais moi, je ne l'ai pas du tout vécu comme ça. Je trouve que l'idée, justement, de se centrer sur un seul personnage est brillante. Parce que, justement, on est immergé dans un point de vue... voilà, c'est un seul point de vue, c'est-à-dire le point de vue de cet homme.
Pas.
Mais justement, lui non plus ne comprend pas ce qui lui arrive.
Et oui, mais nous, on est censé être à l'extérieur quand même, on n'est pas.
Et ben,
dans
non,
ce cas-là, qu'on prenne les spectateurs qui sont dans la salle et qu'on les jette en prison.
Je suis pas d'accord. On a le droit de faire des films avec un point de vue interne, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est ce qu'il a vécu. On est dans le point de vue interne d'une horreur, d'une entrée en enfer. Mais moi, je trouve que c'est un film extrêmement fort. Je ne le colle pas du tout à... Je le compare pas justement à des films comme La guerre est déclarée, parce que pour moi, il y a de vraies idées de mise en scène là-dedans. Moi, je veux dire, c'est un film qui m'a pris à la gorge. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand je suis ému comme ça au cinéma, je me dis que ça fonctionne autant. Bon, je vais peut-être être le seul à le défendre comme ça ce soir, mais moi, c'est un film que je trouve très important. Je trouve que c'est un film qui parle très très bien, Nicolas fait des yeux bizarres.
Est-ce que tu n'es pas coupable, Vincent? Arrête!
C'est parce que moi
coupable.
Je suis un éternel innocent, vous voyez, donc arrête. Je me suis reconnu dans l'Amérique.
Cette culpabilité, Vincent.
Mais non, mais écoutez, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire, c'est un film qui parle de la présomption de l'absence de présomption d'innocence et aussi de la faiblesse du quand même du système judiciaire français, politiquement
mais non,
parlant.
On nous explique rien de tout ça. On comprend pas pourquoi le juge il est comme ça. On
comprend
pas
pourquoi
les policiers.
Mais c'est pas le but.
Si on veut comprendre le problème judiciaire, on peut pas juste dire il y a des innocents.
Non, mais je suis pas d'accord. Mais Erwan, c'est pas ce que veut faire le réalisateur. Le réalisateur prend un point de vue interne. Écoute, et en plus, on comprend mieux que certainement les autres accusés, puisque ce type-là est un huissier de justice, et on comprend dans certaines scènes que lui arrive à déceler la folie qui s'emprègne de ce juge Burgot, qui est juste complètement inconscient de ce qu'il est en train de faire. Et l'huissier en est conscient parce que lui connaît justement le système juridique, et ça, c'est très bien retranscrit dans plusieurs scènes du film. C'est-à-dire que si ça avait été quelqu'un de... D'ailleurs, il en
là,
prend.
Là où je suis d'accord avec toi, Vincent, c'est que c'est vrai que je trouve aussi que c'est plus un film de calvaire qu'un film qui a une intention presque documentaire sur l'affaire.
C'est un film radical. Je pense que c'est un film qui a un point. Qui a vraiment. Une idée très carrée de mise en scène qui s'y tient jusqu'au bout, mais le but c'est pas d'élargir, c'est vraiment de rester sur ce personnage. Et moi c'est ça l'idée que je trouve folle, parce que on est avec ce type. En plus il est interprété par Philippe Torreton, qui je trouve livre une interprétation digne d'un acteur américain. Et pour moi c'est vraiment un compliment.
Tu penses à Christian Bale?
Mais je sais pas, mais écoutez franchement c'est un type qui est complètement imprégné. Je pense que et tous les acteurs sont comme ça. Il y a une vérité, il y a un art de l'ellipse, parce que toi ce que t'appelles des absences, moi je trouve que c'est juste une façon d'utiliser l'ellipse qui est géniale. La première fois qu'il est relâché parce qu'il arrive des bricoles dans sa famille, on voit pour la première fois les visages de sa famille, ça arrive. Moi, ça m'a pris, l'émotion m'a pris. Je trouve que c'est un film extrêmement fort. Et puis, je terminerai en parlant de la mise en scène qui a l'air comme ça d'être un peu approximative. Moi, je ne pense pas du tout, parce que je la trouve tellement efficace que je la crois quasi storyboardée. Je pense que c'est un film qui a été très pensé. C'est un type, Vincent Garin, qui vient de la télé. Et bon, il y a un côté fait entrer l'accusé dans ce film, etc. Mais je pense que ça a pris le meilleur de la télé, très sincèrement, et que on est tellement embarqué dans ce film. Enfin, moi, je suis désolé, mais je trouve que c'est un film important politiquement. Et vraiment, j'ai trouvé ça, mais nécessaire, très nécessaire de faire ce film et de le voir surtout. On passe à Fred.
Moi, si vous voulez. Moi, je vais quand même plus aller dans le sens de Vincent, parce que je trouve effectivement que le film est très efficace. Je pense que moi je le compare. Enfin, moi j'allais le voir après avoir subi Omar m'a tué, qui pour moi avait été une catastrophe. Parce que là, Omar m'a tué, t'étais vraiment dans le film à thèse. Erwan, c'est-à-dire vraiment, là pour le coup, il y avait une distanciation par rapport. Enfin, tu vois, il y avait vraiment, on avait une thèse, il fallait expliquer. Enfin, là effectivement, comme dit Vincent, on est dans une mise en scène, on est dans la subjectivité de ce bonhomme qui raconte son calvaire, et on va suivre le calvaire. calvaire de ce type-là. Et je trouve que c'est justement quelque chose qui est parfois assez, assez vraiment réussi dans le film. Par rapport au personnage du juge Burgo, moi je trouve que le personnage du juge Burgo, c'était sans doute le type le plus ignoble que j'ai vu au cinéma depuis des mois. C'est vrai que ça fonctionne, comme tu dis, sur le côté un peu, c'est nous qui ressentons l'injustice et qui avons envie de faire payer à Burgo ses erreurs. C'est vrai qu'on ne comprend
mais
pas.
C'était l'intention, c'est vrai. Ça marche.
Ouais, mais non, mais je suis tout à fait d'accord.
Le problème, c'est que le juge Burgo, c'est quelqu'un de réel, donc ça aurait été intéressant de voir les choses. Non, mais c'est pas un méchant film de super-héros.
C'est que après,
Non, on peut pas dire ça. Ouais, mais je voudrais répondre juste à Erwan, parce que excuse-moi Fred, mais le tu dis que c'est
mon Burgo.
Non mais oh quelle horreur. Non mais aucun personnage n'est quand même stéréotypé. Je suis désolé, je peux pas dire que.
Mais c'est pas qu'ils sont stéréotypés, non, c'est qu'ils n'existent pas.
Si,
ils interagissent avec Philippe Torreton.
Mais tout est cohérent. Noémie Lvovsky, mais oui, mais
parce que ils en sont arrivés.
Mais parce que lui disparaît de la société, il est tout seul et il voit.
Je comprends l'intention, mais je trouve qu'elle. Moi,
par rapport à Burgo, je trouve que ça marche à l'écran dans la mesure où on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette position d'ahuri qui est face à un type qui a une mauvaise foi absolue dans la façon dont il instruit à charge, dans la façon dont il écoute. Par exemple, on se demande pourquoi ce type fait confiance à ce que raconte Madame Boukdaoui, alors que cette nana est confirmée comme pédophile, etc. Je trouve qu'il y a un problème avec la scène de l'enfant à la fin qui vient témoigner ou qui vraiment se retrouve dans une mauvaise situation alors que c'est d'abord une victime. Bon, mais je trouve quand même que la mise en scène est intelligente dans la mesure où au moins la mise en scène a un principe et un style, je dirais, et elle s'y tient tout du long. Je trouve que le personnage de Burgo est superbe, je trouve que Torreton fait une super prestation. Maintenant, c'est assez curieux, parce que là, je suis pas d'accord avec toi, Vincent, moi, je suis ressorti, et le film ne me questionnait pas politiquement. Parce que pour moi, je suis directement dans le point de vue de ce monsieur, de Alain Maricot, donc ce qui fait que je ne me questionnais pas sur l'institution judiciaire, je ne me questionnais pas forcément sur ce qui lui était arrivé.
Bah dis donc, je sais pas ce qu'il vous faut.
J'avais l'impression de subir un peu le procès, mais sans avoir forcément tous les éléments pour pouvoir à la fin me questionner dessus. Maintenant, je trouve qu'au niveau cinématographique, c'est un film qui marche très fort.
Nicolas.
Pour le coup là, je vais être assez d'accord avec Fred également là, en fait, finalement qui compile un petit peu bien tout ça. C'est que tu vois, on peut être d'accord aussi, Fred, ça nous arrive.
T'inquiète pas, moi, pour c'est le prochain pareil, Yann, c'est
l'intensité que tu décris, Vincent, j'aurais voulu la ressentir, tu sais, en plus que.
Ouais, mais t'es malade.
Non, j'étais bien, j'étais pas encore malade quand je l'ai vu celui-là. Non, parce que tu m'as dit, tu vas voir, c'est un film, toi qui aime pas trop l'injustice, au cinéma, etc. Tu vas vivre un calvaire pendant une heure et demie. Et je ne l'ai pas vécu, ce calvaire.
Alors, il y a quand même des moments donnés où on se dit.
Oui, il y a des moments un peu plus durs, mais c'est absurde. Je pense qu'il y a peut-être le problème vient tout simplement que bah c'est un fait divers réel qu'on connaît la fin. Bon, je vais pas lui donner l'appellation d'heureuse, mais on sait quand même que le personnage principal s'en sort, ne sort de prison et est acquitté. Donc il y a peut-être un côté rassurant dans cette perspective de fin de film qui me
sachant
fait
qu'il y a
pas
un des 14,
vivre
il y a un des 14 accusés d'outreau qui est mort en prison.
Oui, mais en fait ça me fait pas, mais ça on le voit pas non plus, mais ça me fait pas vivre non plus un calvaire incroyable. Maintenant je trouve que la reconstitution est très bonne finalement, parce que moi c'est une affaire que je connaissais aussi pas mal via des documentaires ou des programmes.
Tu regardes avec ta femme, faites entrer l'accusé chaque semaine.
la reconstitution est très bonne. C'est vrai que Philippe Torreton est incroyable dans les rôles secondaires, celui du juge. Myriam Badawi, l'interprétation de Myriam Badawi est incroyable quand même.
Et aussi
quand tu mets les deux photos,
l'avocat Vladimir Yordanov,
mais surtout Burgo.
Burgo, mais
il paraît que Burgo, après la première, a été hué par la salle, tellement les gens détestaient la
photo à côté, etc., ou même des enregistrements sonores, etc., c'est incroyable. Là, il y a une vraie reconstitution. Par contre, hormis ces rôles secondaires, je trouve que à côté du film, il y a plein de petites choses qui nous font sortir. Parce que on a parlé beaucoup un petit peu de la teneur du film. Moi, j'aimerais aussi rentrer dans certains détails qui moi me font sortir. Je trouve que Torreton, tu l'as dit, est incroyable dans ce film. C'est vrai qu'il livre une performance physique, émotionnelle, etc., très très forte. Et je trouve que des fois, le film l'ensemble du film, qui n'est pas pour moi un grand film, et les, des petits rôles comme ceux des policiers, etc., qui jouent à la manière de feuilletons policiers français, pas très crédibles, façon un peu Julie Lescaut ou des trucs comme ça, façon.
Tu vas fort quand même. Hein.
Ah oui, oui, pour les petits rôles, mais quand tu les mets, quand
ça veut
tu
dire
mets.
Que t'as regardé Julie Lescaut.
Je suis désolé, mais quand tu mets ces policiers-là à côté de Philippe Torreton, t'as d'un seul coup un écart qui se creuse au niveau de la qualité du jeu, qui est quand même assez violent, et moi qui m'arrive pas à me faire pénétrer complètement dans
c'est un détail, le policier.
C'est un détail qui te sort quand même carrément.
Ouais, mais moi, je l'ai pas ressenti en même temps.
Bon, bah écoute, ça m'a gêné. Donc voilà, moi je trouve que c'est un film qui est plein de qualité, on l'a dit, qui est une que je conseillerais même plutôt à voir, etc. Par contre, je trouve que ça reste un petit film finalement qui est et c'est un petit film qui n'est pas à la hauteur du grand Torreton.
Ah bon, bon d'accord.
Oh Jerry, this is my son, Charlie. Jerry is our new neighbor.
Hey. Hey. I hate to be the one to tell you this, but that guy, your neighbor,
Jerry,
since he moved in, people are disappearing. I think he's a vampire.
You read way too much Twilight.
On va aller un peu plus vite sur les derniers films, car on a pris du temps sur les quatre premiers. On poursuit avec Fright Night, donc une comédie horrifique en 3D réalisée par l'américain Craig Gillespie. C'est l'histoire de Charlie Brewster, Anton Yelchin, un ancien geek désormais admis parmi les plus cools des élèves de son lycée, où il est en classe de terminale. Donc à ce jour, tout va merveilleusement bien pour lui, jusqu'au jour où il se rend compte que son voisin, interprété par Colin Farrell, est un vampire. Évidemment, personne ne veut croire ou aider Charlie, qui se retrouve dans une panade noire et s'entête à trouver une solution pour débarrasser donc son quartier de ce voisin des plus nuisibles. Allez, qui veut démarrer? Qui veut commencer à en parler? Le spécialiste du film d'horreur horrifique pour gosses, Nicolas.
Pour gosses?
Oh oui, c'est pour les gosses.
Le plus puéril.
Erwan, c'est pas pour les gosses?
Allez-y, vos enfants de 6 ans.
Bah oui, les enfants.
Mais même moins, 2-3 ans, c'est bon.
Démarrer, premier film, quand ils ont 2 ans, vous allez voir ça.
Bon. Non mais bon, je vais aller
Erwan
vite.
Erwan y a né son fils.
Je vais aller vite. C'est un film que je trouve plutôt plaisant. Moi qui m'a aussi plutôt amusé, détendu, divertissant, tout ce que vous voudrez. Il y a un petit côté film. Moi j'étais persuadé que vous alliez le détester. Peut-être c'est le cas d'ailleurs. Mais parce que je trouve qu'il y a un petit côté film d'horreur des années 80 où finalement l'attention est portée, tu vois, à la qualité des. Enfin voilà, aux effets spéciaux qui sont mis dans le film, au goût, faut avoir un espèce de goût pour les maquillages, un petit peu un goût pour le genre qui fait finalement, on regarde ça non pas avec nostalgie, mais avec, je leur dis, un goût pour le film d'horreur, et si on aime bien ça, on va s'amuser devant.
Mais... Ouais, mais tu vois, par exemple, je me souviens, on allait voir Wolfman ensemble.
Ouais, bah, je t'avais dit un peu la même chose. Hein.
Du type qui avait fait justement cette horreur de
Joe Captain Johnson. Johnson. Ouais,
voilà, mais ça. Justement, c'était nul. Hein.
Bah, c'est pareil, c'était plus mauvais sur le plan de la mise en scène, je pense, mais c'est pareil, c'était amusant
non,
parce qu'il y avait un
pareil.
Espèce de goût. Si, attends, le mec qui a fait les, on dévie un petit peu, mais le mec qui a fait les effets spéciaux de Wolfman, c'est Rick Baker, c'est un grand des maquillages américains.
C'est vrai que quand le maquillage est bien fait, le film est bien fait. Oui, non, faut dire les choses telles qu'elles sont.
Non, mais je suis désolé, ça fait partie quand même, ça joue et ça fait partie des critères d'appréciation pour ce genre de film. Je suis désolé, c'est comme ça.
Bah si t'es désolé, on est désolé pour
et
vous
aussi. Et on n'a pas le goût, mais Erwan a l'air d'accord, donc ça me fait plaisir. Donc et, voilà, donc moi j'ai pas grand-chose à dire ça. Il me semble que l'original qui était Vampire, vous avez dit Vampire, enfin qui s'appelait aussi Fright Night en anglais, était quand même un petit peu plus drôle, était accentué quand même sur la comédie. Moi j'espérais un film un petit peu plus fort au niveau de la comédie. Bon, il est rigolo quand même, mais sans plus. Après, c'est marrant aussi de voir dans ce genre de film des vrais moments de mise en scène qui sont quand même assez impressionnants. Je pense à la poursuite de bagnole qui est faite en une espèce de plan séquence.
Elle est super,
comme
cette
ça.
Poursuite de bagnole.
Ça reste vachement impressionnant. Quoi.
Erwan ?
Ben, je vais continuer dans la lignée de Nicolas. Effectivement, moi, j'ai beaucoup aimé. En fan de films d'horreur, en fait, j'ai trouvé que c'était un bon petit film d'horreur bien plaisant. Alors, effectivement, donc, par son origine, puisque c'est un remake d'un film des années 80, donc ça se place dans la lignée de tous les films d'horreur actuels qui sont plus que des remakes, mais ça m'a fait penser un peu, moi, aux quelques bons films que Robert Rodriguez a fait dans les années 90. Il y avait Une Nuit en Enfer et The Faculty, qui étaient assez efficaces.
Moi, je pense beaucoup à Wes Craven aussi.
Wes Craven aussi, enfin, l'esprit années 90, où on refaisait des films d'horreur un peu plus premier degré. Et il y a de ça, donc c'est efficace. Il n'y a rien qui est vraiment exceptionnel, mais il n'y a rien de mauvais non plus. Il n'y a rien d'éliminatoire. Il y a un bon rythme, une bonne mise en scène, un très bon casting. Le casting est très bien trouvé.
Ah oui, il y a Tony Collette aussi.
Tony Collette, Colin Farrell. Il y a un des gamins de Super Grave aussi qui est excellent.
Et il y a la petite copine, je ne sais plus, qui est très jolie. Je ne sais plus comment elle s'appelle.
Imogen Poots.
Toi, tu es fan, tu la connais par cœur.
Bah, j'ai cherché son nom hier et c'est un nom qui tient quand même.
Donc. C'est vrai. Imogen, c'est pas courant.
Et non, vraiment, c'est assez plaisant. Et donc, il y a effectivement cette scène de poursuite de voiture qui est bien mise en scène, qui est complètement pompée sur Les Fils de l'Homme, où il y a aussi une poursuite en voiture.
La fin des Fils de l'Homme.
En film.
On voit un truc pareil dans La Guerre des Mondes aussi.
Aussi, voilà. Enfin, donc, c'est typiquement, tout le film est à l'image de ça. Ça pique des idées partout, mais ça le fait bien. Et. On s'ennuie pas, et donc c'est bien.
Bah, je vais me joindre à vous dans votre avis sur Fright Night, parce que j'ai pris vraiment mon pied. Franchement, faut le dire, je l'ai vu à la sortie d'une journée de boulot assez fatigante. Et,
Vincent est joui.
Pardon.
Toi aussi, t'as pris des cachets, toi aussi.
J'ai pas pris des cachets, non, c'est vraiment, en effet, le teen movie d'horreur des années 90. J'ai pensé à The Faculty aussi. Franchement, je me suis bien amusé. J'ai pensé à Sam Raimi également, son dernier film, Jusqu'en Enfer, qui était un petit peu dans cette ambiance-là. Et voilà, et pareil, j'ai noté les acteurs qui sont vraiment, très très bon. C'est une antithèse de Twilight, ce film. C'est marrant. C'est-à-dire, le film Twilight est cité.
Il y a une référence.
Ouais, on se moque, c'est un peu, voilà, c'est un peu les garçons qui se moquent des filles pour le film de vampire. Là, on a un film de vampire plutôt pour les garçons.
C'est vrai,
ça se prend pas au sérieux du tout. Je trouve ça assez réussi dans le genre. Vraiment, c'est un bon film de divertissement. Si vous ne savez pas quoi faire un samedi soir 22h, que vous savez pas quoi choisir au ciné, franchement, rentrez dans cette salle. C'est pour
j'y
vous.
Pense, ça me traverse la tête parce que dans Crazy Stupid Love, il y a aussi une référence à une réplique sur Twilight, ça doit être la mode en ce moment.
Bah oui, ça, je pense que ça a peut-être encore plus de répercussions aux États-Unis que Twilight qu'en France. Fred, pour
terminer. Je suis en train de me demander si c'est pas là qu'il y a Quimole. Si c'est pas dans ce film-là, c'est quand il n'y a pas son camarade
leitmotiv de la soirée.
Qui est devenu vampire, qui dit ça à son pote, ou alors si c'est pas Colin Farrell qui dit ça au gamin. Oui, bah voilà.
Super.
Disons, je suis d'accord. Le film est assez fun. Hein, c'est ce qu'il veut être. Il est fun. Il est plutôt enlevé. Il faut quand même le dire, des trous dans le scénario qui sont parfois un peu bizarres. On passe d'une scène à l'autre comme ça, de façon un peu fonctionnelle.
Mais toi, tu vas voir ça comme tu vas voir un Bergman.
Pas du tout. Donc parfois, mon attention relâchait. Moi, je trouve que le film aurait dû s'arrêter après la poursuite en bagnole quand elle lui met le panneau dans le cœur à ce moment-là. Enfin, quand elle lui met le panneau dans le corps, parce que je trouve que vraiment la fin est très longue, très répétitive.
C'est-à-dire au bout de 50 minutes.
mais vraiment, je trouve que après, c'est toujours. Enfin, moi, cette espèce de surenchère après m'ennuie un petit peu. Moi, pour moi, il y a un grand. Le film ne fait que confirmer ce que je pensais, c'est que Colin Farrell est formidable. Moi, c'est vraiment un acteur que je trouve d'abord qui a une filmographie qui est absolument merveilleuse.
Très intéressante.
Et je trouve qu'il joue ça avec l'ironie qu'il faut, tout en s'amusant de son côté un peu beauf pendant tout le film. Je trouve que c'est un bonheur à regarder. Colin Farrell, il en joue, il s'amuse et il a, et lui vraiment s'amuse et il nous fait aimer le film, il nous fait nous amuser. Maintenant, c'est vraiment un tout petit truc. Quoi.
Je sens que t'aurais aimé qu'il chante, non?
Pourquoi
qu'il
pas
qu'il fasse des gâteaux au wash.
Non, non, mais c'est
tout en coupant des boutons.
Il y a un truc d'ailleurs, j'ai remarqué sur Colin Farrell, c'est un acteur que les gens souvent n'aiment pas Colin Farrell quand on leur demande parce que
jeunes filles.
Pour les mauvaises raisons, en fait.
Non, c'est pas ça. C'est comme il joue souvent des rôles de salaud. J'ai l'impression que c'est parce qu'il est tellement crédible en salaud qu'on l'identifie un petit peu à ses rôles.
C'est vrai que même chez Malick, il joue un salaud.
Je trouve qu'il y a une forme d'élégance beauf chez Farrell.
Surtout, ce qui est bien avec Colin Farrell, c'est qu'il c'est une star, mais il cherche pas à modifier le film en fonction de son statut de star. Il s'adapte au film là, clairement. Il joue un personnage qui est le méchant, qui meurt à la fin, tout ça. Il cherche pas du tout à se mettre en valeur via les films. Il se met au service. Et ça, c'est très plaisant.
Voilà, c'était donc Fright Night, le film sur lequel donc Fred nous a révélé qu'il était amoureux de Colin Farrell.
Je veux que tu deviennes pire qu'eux. Je veux qu'ils aient peur de toi.
Tu veux finir comme ta mère.
Tu vas apprendre à faire semblant. Maman ours sait ce qui est bon pour son bébé.
Carré Blanc, c'est un premier film réalisé par Jean-Baptiste Leonetti qui nous vient de la publicité. C'est l'histoire de deux personnages qui ont grandi ensemble dans un orphelinat, Philippe et Marie, interprétés respectivement par Samy Boisgila et Julie Gayet. Plusieurs années plus tard, ils sont mariés et vivent dans un univers complètement déshumanisé. Ils ne se parlent quasiment plus, sont presque devenus étrangers l'un à l'autre, comme nous tous autour de cette table. Je crois que seul Erwan d'ailleurs a vu le film. Erwan a vu le film que j'avais inscrit, qui était dans la liste, et vous avez décidé d'aller voir autre chose. Vous ne m'écoutez plus, ça me plaît pas. Oui, Nicolas.
Oui, non, mais
tu veux la parole,
si,
je te la donne.
Je veux la ramener encore une fois, bien que j'ai rien vu.
Tu as ton avis sur le film.
J'ai mon avis sur le film. Oui, j'ai mon avis sur la distribution de ce film, puisqu'il faut en parler. Vincent, je ne sais pas si tu comptais le faire, mais j'en parle. C'est un film qui est assez attractif. J'avais envie de le voir. Il passe dans 10 salles en France, il faut le dire. 10 salles, 3 à Paris.
C'est pas, quand même... pas à toutes les séances de la journée.
Ouais, et c'est quand même très problématique. Donc moi, je suis pour défendre des trucs comme ça, mais c'est un problème puisque les gens aussi vont avoir du mal à le voir, etc. On va en parler peut-être si on en redira un mot à la sortie DVD ou quelque chose comme ça.
Tu as raison. Voilà. C'est une intervention nécessaire pour le coup. J'ai bien fait de te donner
la parole.
C'est un coup
de gueule.
Allez, Erwan, tu me dis ce que tu penses du film.
Bah, d'abord, je vais compléter ce que dit Nicolas en disant que c'est quelque chose qui se produit de plus en plus aujourd'hui. Les petits films qui sortent dans 5 salles pour 2 semaines. Et à côté de ça, les énormes blockbusters, qu'ils soient français ou américains, qui prennent 4 salles par cinéma. Et donc, c'est vraiment problématique parce qu'il y a. Il y a des films qui deviennent invisibles.
Tu l'as vu où, toi, Carré Blanc ?
Je l'ai vu au MK2 Parnasse, où il passait la semaine dernière, donc il y a déjà un mercredi qui est passé, à 14h et à 22h.
Ah oui, d'accord, fallait vraiment pas le louper. C'est quand même aberrant qu'à Paris, on soit confronté
à
ça.
Il passe au Saint-André des Arts, où ils ont une politique de passer les films pendant assez longtemps, donc je pense qu'il risque peut-être de rester un mois, mais c'est une salle.
Bon, ok. Alors, sinon, c'est comment ?
Après vous avoir dit que c'était une honte, que ce soit pas très bien, que ça passe pas partout, c'est pas très bien en fait. J'ai pas.
C'est normal qu'il soit pas diffusé, c'est nul.
Le problème, voilà, c'est que les gros films qui soient nuls ou qui soient bien, ils vont avoir 1000 copies. Les petits films, quand ils sont bien, ils vont en avoir 100, et quand ils sont nuls, ils vont en avoir 5. Quoi. C'est un gros problème. Donc l'idée de départ me plaît énormément et me plaît encore après avoir vu le film que je n'ai pas aimé. Ça me frustre un peu. C'est cette idée en fait de se demander ce qui se passe. Ce que tu n'as pas dit, en fait, un élément clé, je crois,
du scénario,
qui est présent dès le début, donc ce n'est pas vraiment un spoiler, c'est que, en fait, les cadavres sont réutilisés pour fabriquer de la viande dans le film, qui est, en fait, donc, du coup, un univers à la Soleil Vert, c'est l'idée de Soleil Vert. Et l'idée du film, en fait, ce n'est pas juste de s'arrêter à ça, c'est à se demander comment ça modifie le comportement des gens dans une société où, finalement, la vie humaine n'a plus son unicité par rapport à tout le reste. C'est... Si on finit en burger, c'est plus pareil que si la vie humaine est sacralisée. Quoi.
Sur le papier, c'est quand même passionnant.
C'est une idée qui, moi, je trouve toujours passionnante. Mais le film, finalement, l'utilise assez peu. Il en fait deux utilisations, donc, sur le côté relation dans l'entreprise et sur le côté relation dans le couple. Mais il patine assez vite. Quoi. Il y a une demi-heure où il développe ça, et ensuite, il ne fait plus que reproduire les mêmes motifs, les mêmes dynamiques entre les personnages. Et en plus, il est très austère dans la forme, donc c'est voulu, mais l'un et l'autre combinés font que je me suis de plus en plus détaché du film jusqu'à ne pas ressentir grand-chose à la fin.
Je suis assez d'accord avec toi. Enfin, moi, je suis sans doute plus positif, même si je trouve le film assez déséquilibré, il y a des petits problèmes. Néanmoins, pour un premier film qu'on devine en plus
bien
sans
sûr,
argent,
ouais.
Franchement, ça a quand même de la gueule.
C'est sûr, mais c'est peut-être que l'idée est tellement forte que j'en attendais plus.
L'idée est forte. Est-ce que en revoyant ça, t'es reposé ? Je sais pas, parce que je pense franchement que c'est un film intéressant. C'est vrai, tu as cité Soleil Vert. Je pense qu'il y a énormément de références dans la façon de filmer des immeubles. Moi, j'ai pensé à Wenders, aux Ailes du Désir, hein, donc bonne période, on va dire, mélangé avec Le Meilleur des Mondes d'Aldous Huxley. On est vraiment avec des références assez fortes sur des réflexions humanistes, philosophiques et particulièrement poussées sur l'humanité, sur le futur, la déshumanisation. Voilà, c'est vrai que c'est un film qui expérimente pas mal, qui a énormément d'idées de mise en scène, qui joue sur les contrastes, cet esprit noir et blanc. Enfin, moi, c'est un film qui m'a vraiment intéressé, avec une direction d'acteur également qui va dans le même sens. Donc, comme tu dis... Ça tangue de temps en temps, on peut s'ennuyer, c'est un film qui est très court, en plus il dure 1h15, je veux dire.
C'est pas tant qu'on s'ennuie, c'est que moi je me suis détaché, le film est tellement froid qu'au bout d'un moment il fonctionne trop bien sur ce point-là. Quoi.
Ouais. Le film est glaçant. Mais franchement, moi je pense qu'on a là, j'espère, parce que c'est important de dire ce que tu as dit Nicolas et toi Erwan, c'est-à-dire que le film n'est pas distribué, ce qui est dommage parce que c'est un film, un petit premier film, qui a de l'ambition, avec un auteur derrière, qui en est un, j'insiste sur le mot auteur, qui promet pour la suite. Le problème, c'est est-ce que
après, autre chose, quoi.
C'est, voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'après un film aussi mal distribué, est-ce qu'on va laisser à ce Jean-Baptiste Leonetti une chance de faire un deuxième film? On va voir. Moi, je lui souhaite vraiment parce que j'aimerais voir une suite à sa carrière.
Moi aussi, mais malheureusement, la jurisprudence, c'est plus qu'en France, on laisse faire un premier film et après, les personnes...
Et voilà, c'est ça. Donc, c'est quelqu'un qu'on va peut-être devoir disparaître.
Ouais, quoi. Mais le problème, c'est que pour refaire des films, il faut faire des entrées. Comment tu fais des entrées quand ton film n'est pas dans les salles?
C'est ce que je veux dire.
À la limite, moi, je me pose même la pertinence de le sortir en salle et pas de lui donner une vraie chance en DVD avec une belle promo DVD ou quelque chose comme ça. Il y a des DVD qui ont peut-être plus de chances quand ils sortent directement que quand ils passent dans ils ont sorti 6 mois avant dans 10 salles, quoi.
Le problème, c'est que le marché du direct ou DVD, c'est plus des films décérébrés que des films intello, quoi.
Il y a des choses pas mal, hein. Il y a eu Moon qui ouais, est... Bah oui.
Moon, c'est une honte qu'il soit pas sorti en salle.
Bah oui, mais comme quoi il y en a.
Oui, film décérébré comme le dernier Spike Lee par exemple.
Bon, allez, on va arrêter sur ce bon voilà, carré blanc qui part sur un débat sur la distribution en France. Intéressant, ceci étant. Mais voilà, donc si vous... Moi, je vous conseille quand même d'aller découvrir Carré Blanc, qui n'est pas un film assez cérébral.
On essaiera de vous en dire un mot à la sortie.
On en reparlera, parce que...
Pour qu'au moins, si des gens, des auditeurs sont intéressés, qu'ils aient accès au film, quoi.
Voilà, mais le film mérite d'être vu.
25 years of marriage, you have nothing to say?
I'll just say it. I slept with someone.
If you keep talking, I'm gonna get out of the car.
I think the fact that I did it...
Okay.
Oh my God! Help!
You're getting a divorce?
Yeah.
Amy heard you crying in the bathroom. We all thought it was cancer.
Oh.
Thank God.
Yeah, just my relationship.
On poursuit très rapidement avec Crazy Stupid Love. Ce n'était pas au programme, mais Nicolas a pris sur lui comme ça de l'imposer.
Bon, ouais, moi, écoutez, je l'ai pas vu.
Mais bon, voilà, donc je te laisse peut-être faire le synopsis.
Oui, j'avais pas préparé, donc excusez-moi, j'ai pas les noms exacts,
parce
mais globalement.
Plus t'imposes des films et tu prépares rien.
Non, mais j'ai pas les noms de personnages précis, mais c'est pas grave. C'est l'histoire d'un quarantenaire qui se fait larguer par sa femme qui lui apprend qu'elle l'a trompé avec un collègue de travail. Et à partir de là, il va être mis dehors avec aucun potentiel de séduction. Il va rencontrer un jeune homme dans un bar qui lui enchaîne les conquêtes et qui va se charger de le remettre sur le marché de la drague en quelque sorte, sauf que cet homme se pose un petit peu un questionnement puisque existentiel, puisqu'il est encore amoureux de sa femme et au final il voudrait aboutir à la reconquérir. Voilà. Erwan, tu penses que c'est plutôt un bon résumé?
Oui, c'est bien résumé.
Bon, merci.
on va passer au film suivant.
Non, mais j'enchaîne.
Dis-nous ce que tu en as pensé.
Ce que j'en pense. Donc, c'est fait par Glenn Ficarra et John Requast qui avaient fait
I Love You, Philip Morris.
C'est aussi pour ça que j'ai voulu me déplacer.
Parce que
j'avais beaucoup aimé et je trouvais le film très péchu et très emballé et très drôle surtout. Donc, je trouvais que c'était une belle comédie américaine, très prometteuse. Je trouve que celui-ci est un petit peu moins pertinent que leur premier film, puisque justement un peu moins péchu. Cela dit, il y a encore une mise en scène qui est louable, qui pointe le bout de son nez, enfin en tout cas son intérêt un petit peu tardivement, puisque je trouve que on va dire la seconde partie du film est peut-être plus inspirée que la première. Je trouve que le film se passe d'exposition trop longue, etc. Ça fait qu'on rentre dans le cœur du sujet, ce qui est une bonne chose. Ça fait quelque chose d'assez rythmé. Il est assez long. Il fait ses deux bonnes heures et finalement ça passe assez bien. Je trouve toujours le film drôle, pas hilarant de bout en bout, mais en tout cas il y a des bonnes blagues qui sont inattendues, qui fonctionnent et qui sont bien écrites et moi je me laisse surprendre.
Bon,
Erwan, pas mal.
Tu peux nous dire quels étaient... tu as pas cité les acteurs, je crois. Juste si tu peux citer les acteurs avant de nous dire ton avis.
Tout à fait,
parce que il me semble, ça semble important quand même. Il y en a
exactement. C'est l'une des deux raisons pour lesquelles je suis allé. L'autre, c'était les réalisateurs. Les acteurs, donc il y a Steve Carell de The Office, il y a Ryan Gosling qui sera dans Drive et qui était dans Blue Valentine.
Qui va être aussi dans Ryan Gosling qui est dans le George Clooney. Très présent, hein. Il va être dans le George Clooney. Bref.
Et il y a des seconds rôles, c'est du 5 étoiles. Il y a Julianne Moore, il y a Kevin Bacon, il y a Marisa Tomei aussi qui est extrêmement
rare.
Nicolas,
il ne dit pas parce qu'il s'en fout, les acteurs.
Donc voilà, le casting est brillant. Les réalisateurs étaient intéressants pour I Love You, Philip Morris. Et le film, moi, m'avait déçu. Parce qu'il compile tous les travers de la comédie sentimentale américaine puritaine.
Tu parles de Philip Morris ou de...
Non, de celui-là.
De celui-là.
C'est pas faux. C'est vrai que c'est un peu le point négatif du film quand même.
Et où finalement, on promet quelque chose d'un peu subversif, d'un peu impertinent, d'un peu différent, de marcheur des sentiers battus. Et alors qu'au final, le but, c'est de ramener tout le monde dans le droit chemin du couple monogame, de l'amour homme-femme, du mariage avec enfant, du pavillon, enfin quelque chose de...
Le supra-américain, quoi.
C'est, ah ouais, ouais, et le dernier quart d'heure là-dessus est terrible, puisqu'il y a... On a droit au sermon du gamin de 13 ans qui connaît tout à la vie, ensuite à son père qui prend la parole pour faire ses excuses en public, à la femme qui le reprend, enfin c'est presque comique à quel point c'est...
Ouais, mais ça paraît pas lourd non plus, je trouve. Ça m'a pas paru si lourd que ça.
Vous le conseillez pas?
Moi, je le conseille pas.
Moi, si, parce que je le trouve drôle. Je suis désolé, il fonctionne dans son humour.
اون بیرون خیلی از آدم ها هستن که میخوان اینجا رو ول کنن و برن. کار من اینه که بشینم به داستان اونا گوش بدم و یک راه حل منطقی برای مهاجرتشون پیدا کنم.
Allez, un petit mot sur un film iranien, parce que sans film iranien, franchement, la sélection serait pas complète, n'est-il pas, Frédéric Mercier ?
On a un quasi-libanais, hein, c'est bon.
Non, mais sans film iranien, ouais, Fred, il est pas content. Donc lui aussi, il a imposé son film, il est allé voir Au revoir, et il va nous le résumer.
Bah, Au revoir d'abord quand même, qui a eu le prix de la mise en scène au dernier festival de Cannes, dans la sélection Un certain regard.
Ah oui, c'est vrai.
Donc c'est l'histoire d'une jeune femme avocate à qui on a retiré sa licence, qui est enceinte de plusieurs mois et qui vit seule donc à Téhéran. Son mari est dans le sud du pays. Où il a été lui aussi limogé de sa place de journaliste, sans doute un peu subversif enfin, par rapport au régime. Donc elle est toute seule, elle est enceinte, elle ne sait pas très bien ce qu'elle va faire de cet enfant, si elle va le garder ou non, mais elle a surtout une envie maintenant, c'est de fuir le pays. Voilà.
C'est vachement original. Pardon.
Il faut savoir que
le
cinéaste Mohamed Rasoulov, qui avait déjà fait un film qui s'appelait La vie sur l'eau avant, qui était un film assez intéressant sur des gens qui vivaient sur un ancien cargo, ce cinéaste a fait partie avec Panahi vraiment des cinéastes qui ont été vraiment inquiétés par le régime de j'arrive jamais à dire son nom du président iranien. Et donc c'est quelqu'un
et personne
qui
reprend,
connaît,
donc j'imagine que personne ne sait le dire.
C'est réfléchi à comment on le prononce bien.
C'est quelqu'un qui donc fait ce film aussi un petit peu en connaissance de cause, parce qu'il a été embêté par les autorités, il a été interdit de tourner, il a été emprisonné, je crois.
Oui, il est enfermé, non
Non, il n'est pas emprisonné. Il est juste interdit de tourner, en fait, comme Panahi, il est interdit de tourner pour 15 ou 20 ans.
Mais il était à la Cinémathèque. Hein,
pourquoi des fois on ne fait pas un peu la même chose en France? Je ne sais pas, des Nicole Garcia, faudrait l'interdire.
Oh,
le doyon et tout.
Samuel aussi, dans ce cas-là.
Bon, Fred, finis ta critique.
Le film, vraiment, j'appelle ça un film à dispositif, quoi. Il y a vraiment un dispositif de mise en scène, comme on a pu en voir vraiment au début des années 2000. Moi, tout à l'heure, je posais la question à Erwan, je disais, est-ce que Haneke n'a pas fait que du mal au cinéma? Parce que vraiment, on est dans des plans séquences qui peuvent durer très longtemps, qui peuvent durer 10 minutes, qui sont fixes. Et puis, il va se passer des choses hors champ, il va se passer des choses dans le champ.
Tu peux pas résumer ça à Haneke?
Non, d'accord.
C'est pas lui, quoi.
D'accord.
Non, c'est vrai qu'il est c'est l'un des modèle de ce genre-là.
Ouais, d'accord, mais c'est un des seuls qui fait
bien.
Non, mais
je suis pas en train de dire que Haneke a peut-être fait de mauvais enfants.
Avant lui, il y a eu quand même Antonioni et plein d'autres réalisateurs qui ont adopté le plan séquence. Hein,
oui, tu me fais penser vraiment à tous les cinéastes que j'aime. Antonioni, Haneke, enfin pour moi, bon, c'est des gens que j'aime pas forcément beaucoup, mais bref. Je trouve le film très enferré dans son dispositif à l'égal du personnage, à l'égal peut-être du cinéaste. Donc il y a un jeu aussi sur le son, on entend tout. Je trouve le film un peu long, un peu ennuyeux, mais je le trouve aussi assez intéressant. Il me rappelle aussi par rapport à son traitement de l'image, il me fait penser beaucoup aussi à Yazanke, puisqu'il est tout le temps en train de filmer. L'ambiguïté de Téhéran, qui est à la fois une ville prise entre la tradition et la modernité. Et ça, je trouve qu'il le fait très très bien, parce que ses cadrages sont très bien pensés.
Alors pour ou contre finalement, bilan?
Super. Je le conseille pour des gens qui sont bien accrochés, quoi. Qui...
Bon, Nicolas, tu l'as pas vu, Erwan.
Alors moi, je l'avais vu en juin quand il était passé. Il y avait eu la rétrospective de Un certain regard à Paris. Et
oui,
je comprends.
D'ailleurs, c'est Reflet Médicis.
C'était Reflet Médicis, ouais. Je comprends tout à fait ce que dit Frédéric du film et pourquoi il a pas aimé. Moi, ça m'a intéressé qu'il y ait tout ça, parce que je savais en arrivant dans la salle la situation du réalisateur. Et du coup, finalement, ce qu'on voit à l'écran, ce n'est que la transposition de ce que sûrement lui vit, en fait, ce sentiment d'enfermement, de blocage total de tous les côtés, puisqu'il peut, il peut pas trop quitter son pays. Enfin, il a pas envie de quitter son pays, puisqu'il veut, il veut le traiter de l'intérieur, mais il peut pas filmer, il peut pas vivre tranquillement. Et tout ça, il y a une correspondance entre ce que lui vit, probablement, et ce qu'il met à l'écran, qui moi, m'a intéressé. C'est vrai que le film est très austère. C'est, mais.
Il est très rigide.
Il est long. Très rigide.
Il est long.
Et 1h40.
1h40.
Enfin, c'est beaucoup.
Mais c'est voilà, c'est j'ai trouvé que c'était un témoignage très sincère, très direct. En fait, voilà, c'est un témoignage direct. Je pense pas qu'il soit du dispositif. En fait, c'est vraiment comme ça qu'il ressent la vie et du coup vie, le cinéma, oui. Puisqu'il.
C'est donc, ce qu'il fait, est-ce que tu le conseilles, toi?
Bah oui, c'est oui, oui.
Donc c'est Au revoir. Rappelle-nous le nom du réalisateur, Fred.
Massoulof.
Rassoulof. Rassoulof.
Mettez-vous d'accord.
Mohamed Rassoulof.
Merci, Erwad. Bon, on termine avec des conseils. Qui en a, qui n'en a, qui n'en a pas? Oh, ben Fred, il en a. Oh, ben vas-y. Ah, j'ai une idée. On va faire un conseil par un conseil et on reviendra à toi. Vas-y.
Non, parce que moi, je voulais citer plusieurs films d'un même cinéaste parce qu'il s'est
bon,
quand
alors,
même
passé. Les plusieurs films d'un même cinéaste.
Vas-y. Non, mais c'est très simple. Il y a quand même eu la semaine dernière quelqu'un qui a gagné le Lion d'Or à Venise. C'est Alexander Sokourov. C'est peut-être.
Mais non, pas Valérie Donzelli.
C'est
faut
peut-être,
le dire parce que
c'est peut-être le plus grand cinéaste. C'est peut-être. Enfin, c'est
mais non, mais écoute, elle gagne tout, Valérie Donzelli. On l'envoie.
C'est l'un des plus grands cinéastes.
C'est jaloux, en fait. C'est tout.
C'est l'un des plus grands cinéastes vivants. Moi, je n'ai pas encore vu son film, j'en rêve. Je pensais qu'il aurait été sélectionné à Cannes.
Il ne voulait pas aller à Cannes.
Mais j'étais très déçu.
Oui, parce que la dernière fois qu'il avait gagné à Cannes.
Parce que la dernière fois qu'il était venu pour Alexandra, il avait été. Enfin, il y avait eu de gros, gros. D'ailleurs, il n'était pas venu parce qu'il
donc
était.
Là, tu conseilles un film. Attends, je t'arrête. Tu conseilles un film que tu n'as pas
non,
vu de mieux en mieux.
Non,
de mieux en mieux.
Avant que sa transposition de Faust ne vienne, moi, vraiment, je conseille vraiment de redécouvrir les films de Sokourov et tout simplement sa trilogie Les Dictateurs, puisqu'il a fait trois films sur des dictateurs.
Le premier,
c'est quelqu'un de très joyeux.
Donc, non, mais moi je suis d'accord avec Fred, c'est super. Vas-y, Fred, ouais, continue.
Il y a Taurus.
Il y a... Taurus sur Hitler.
Non, ça c'est Moloch. Donc,
ah, pardon, c'est deuxième... Taurus c'est sur Lénine.
Taurus sur Lénine, qui est un film à la fois très drôle et tragique, vraiment incroyable. Moloch, qui lui verse quasiment à la Commedia dell'arte.
Sur Hitler.
Et évidemment, le Soleil, qui est un chef-d'œuvre.
Le Soleil est extraordinaire.
Sur Hirohito. Ah ouais, sur le moment j'approuve. Où Hirohito a appris qu'il avait perdu la guerre et il décide de dire à son peuple qu'il n'est plus le fils du Soleil.
Ouais, faut revoir Le Soleil, c'est vraiment un super film. Des conseils, Nicolas?
Non, enfin ceux que t'as mis sur Facebook, c'est la sortie que Détective dit et de l'eau pour les éléphants, voilà, c'est fait.
Non, moi je me désolidarise de cette publicité avec de l'eau pour les éléphants.
Allez. Arrête, t'as trouvé pas ça si mal que ça.
Erwan.
Moi aussi c'est un DVD, en passant à la FNAC hier, je me suis rendu compte qu'il y avait Carlota qui sortait La Prisonnière Espagnole de David Mamet, qui est un... film culte que personne n'a vu, personne connaît.
Si, c'est un excellent
voilà.
Film.
Un excellent film à scénario à tiroir, tout ce qu'on veut, c'est très bien écrit, très bien pensé. Alors juste la seule déception, j'ai vu qu'il n'y avait pas de bonus, ce qui est un peu décevant, surtout de la part de Carlota. Voilà.
Ouais, mais ça, les éditeurs DVD, vraiment, on propose de moins en moins.
Ouais,
c'est
ouais, mais
c'est tellement la crise du DVD, que, mais de moins en moins, le, ouais,
c'est dommage,
même Carlota.
Mais bon, le film vaut vraiment la peine, surtout que c'est, il est vraiment pas très connu, donc...
Bon alors moi aujourd'hui je vais jouer mon Frédéric Mercier, j'ai plein de conseils. Alors, d'abord je vous conseille des bouquins.
Ah on n'a plus le temps.
Eh ben non, c'est moi qui présente parce que je veux... Bon alors, il y a le Jane Mansfield de 1967 de Simon Liberati chez Grasset, qui est un bouquin vraiment passionnant, noir, qui ressemble à du Truman Capote. Faut lire ça, c'est sur la liste du
oui,
concours.
Et il faut absolument redécouvrir qu'il était sorti chez Wildside il y a 3 mois, La Blonde Explosive de Frank Tashlin avec Jane Mansfield.
En complément. Jane Mansfield, qui est quand même la première de toutes ces lignées de bombes, de petites bombes hollywoodiennes un peu pétasses sur les bords, du genre par exemple.
Oui, mais elle n'était pas décérébrée.
Et tout ça, voilà. Oui, bref. Voilà, il y a le petit éloge du cinéma français. Alors là, c'est mon rédacteur en chef, Jean-Jacques Bernard. Je trouve que vraiment, si vous espérez, vous, je sais qu'on a pas mal d'auditeurs qui voilà, font de la critique de cinéma également, sont journalistes de cinéma ou blogueurs, je vous conseille de lire ce livre. Vous y retrouverez complètement. Il y a 100 pages, c'est chez Folio, ça coûte 2 euros.
C'est un livre très, très émouvant sur le parcours d'un critique et la façon dont, à un moment donné, il voit même presque abandonner sa collection de films pour pouvoir continuer à aller de l'avant. Quoi.
Voilà, et c'est vraiment un très joli livre. Et enfin, 2 Blu-ray chinois qui sortent et bon, d'abord, d'habitude, le cinéma chinois, c'est ou Fred ou Nicolas, je prends le... Voilà, c'est Épouse et concubine de Zhang Yimou et Adieu ma concubine de Chen Kaige qui ressortent en Blu-ray, qui, moi, sont 2 films que j'aime particulièrement. Donc le premier, les 2 sont chez Devision. Voilà. Tu as voulu dire quelque chose ? T'aimes pas ?
Non. Ce sont des cinéastes intéressants, ce sont des films intéressants, mais.
Bah, c'est une palme d'or voilà, quand même, Adieu ma concubine.
Oui, c'est une palme d'or ex aequo.
Avec Jane Campion.
Avec la leçon de piano.
Ouais, mais deux grands films, je trouve. Bon, bref, voilà. Kaboom numéro 24, c'est terminé. Mais avant, j'ai failli oublier le conseil, le film qu'il ne faut surtout pas louper sur notre sélection de 8 films d'aujourd'hui. Allez, on commence avec toi, Erwan.
Habemus Papam.
Nicolas.
Habemus Papam.
Fred.
Habemus Papam.
Et moi, bien sûr, La Guerre des Boutons. Non, Habemus Papam, voilà. Kaboom numéro 24, c'est terminé.
Oh, Vincent, pourquoi t'as pas dit Présumé coupable puisque on était tous d'accord sur Habemus Papam?
C'est vrai, j'aurais pu, c'est un film important. Bon,
Fred,
les deux.
Je crois qu'on fait nos critiques en fonction des autres. C'est incroyable.
Bon, bref,
quand même.
Vous pouvez comme toujours retrouver et télécharger cette émission sur www.kaboomémission.com. Vous pouvez également nous livrer vos avis et commentaires dans la rubrique Nous contacter du même site ou encore sur nos pages Facebook ou Twitter. Faites connaître l'émission. Erwan, ravi de t'avoir à nouveau accueilli dans cette émission. Tu reviendras parce qu'on t'adore. Un petit mot pour conclure.
Et parce que t'es d'accord avec nous, voilà.
Que t'aimes pas La Guerre des Boutons.
Bah, merci de m'avoir invité. Et si vous me réinvitez, je reviendrai.
Dire du mal de La Guerre est déclarée. Tu viens quand tu veux.
Mais comme Nicolas te l'a promis, nous te réinvitons également d'office pour le prochain Nicole Garcia. Je rappelle l'adresse de ton site www.ciné-partout-toutletemps.fr. Merci à toi, merci également à vous deux, Frédéric Mercier et Nicolas Kuhn, de répondre toujours présent à mon invitation, hein, parce qu'évidemment le jour vous gicler un jour. Bon, je veux plus.
Évidemment.
Hein. Bon, évidemment. Bon, on se retrouve dans 2 semaines pour de nouvelles. Sortie.
Je sais pas, on vient ou pas.
Entre temps, il y aura un Kaboom classique.
Et entre temps, bien sûr, il y aura un Kaboom classique sur Gérard Depardieu. Ouais. N'oubliez pas, d'ici là, allez au cinéma. Et donc, attends, dans 1 semaine dans Kaboom classique et dans 2 semaines pour Kaboom. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.